Bonsoir à tous et bienvenue sur le cours de F6KGL. Donc ce soir on va voir le chapitre 10 et on va parler des lignes de transmission et des adaptations, donc entre la ligne de transmission et l'antenne. Puisque on va supposer que l'adaptation entre la ligne de transmission et l'émetteur est enfin, pas parfaite, mais enfin, elle est bien réalisée parce qu'on va avoir la même impédance en sortie d'émetteur que dans le câble coaxial, dans la ligne de transmission que l'on a après. Et tous les problèmes vont être finalement déplacés au niveau de l'adaptation entre la ligne de transmission et l'antenne. Alors, premièrement, une ligne de transmission, c'est quoi? En fait, une ligne de transmission, ben, c'est deux conducteurs dans lesquels passe du courant. Donc ça, c'est l'émetteur qui va générer ça. Et donc, cette ligne de transmission va être utilisée pour transférer l'énergie, soit de l'émetteur vers l'antenne, ou au contraire, quand on est en réception, de l'antenne vers le récepteur. Encore une fois, la ligne de transmission comme l'antenne, c'est un élément qu'on appelle passif. C'est-à-dire qu'il a les mêmes caractéristiques à l'émission et à la réception, c'est-à-dire dans un sens ou dans l'autre. Et quelles que soient aussi les puissances. Alors évidemment, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, on se calme sur les puissances. Évidemment, vous n'allez jamais faire passer des kilowatts dans un bout de coaxial de 6 mm. C'est pas possible, ça va fondre. Voilà. Mais dans la mesure du raisonnable, je dirais, un câble coaxial a les mêmes caractéristiques qu'il fasse passer un courant d'émission ou un courant réception. Quelques microvolts dans le cas de la réception et quelques dizaines, quelques centaines de volts selon la qualité, enfin, selon les caractéristiques du câble, quand on est en émission. Et donc, une fois qu'on a dit ça, eh bien, on peut avoir différentes lignes de transmission. Donc, je vais commencer par vous montrer un câble coaxial. Ça, c'est un câble coaxial particulier, c'est du câble coaxial professionnel qui sert à alimenter les antennes relais. Donc on a récupéré. Je ne sais plus qui a récupéré ça. Donc là, il y a la photo là, je vais vous la passer parce que je vais peut-être récupérer au Radio Club. Donc voilà. Ça, c'est le câble. Donc, j'aurais dû le mettre dans ce sens-là. Ça, c'est le câble en lui-même. Il est bien sale d'ailleurs, je pense qu'il a été traîné. Voilà, donc on voit, alors mon petit crayon. Donc il y a une gaine isolante, voilà, si possible qui tient bien les UV, le gel, etc. Vous remarquez que ce bout de câble là, il est très rigide, enfin vous ne le voyez pas, mais je peux vous dire que c'est impossible à tordre. Donc le rayon de courbure doit être très important. Et voilà, je ne sais pas comment c'est monté après. Enfin, en tout cas, ça nécessite à ce que les câbles qui passent sont coudés, mais de même. Je ne sais pas, ils sont peut-être cintrés, je ne sais pas. Donc voilà, une gaine extérieure. Super vert flashy. Ici, à l'intérieur, un feuillard en cuivre, hein, que j'ai coupé là d'ailleurs, hein, pour vous montrer comment c'était foutu à l'intérieur. Mais normalement, il est complet là, évidemment, hein, le feuillard. Donc, un feuillard en cuivre. À l'intérieur, un diélectrique. Donc là, je vous ai mis, on l'a démonté en partie. Donc voilà. Ça, c'est le diélectrique qu'il y a à l'intérieur. On voit, je ne sais pas si vous voyez à l'écran, je vais essayer de le positionner, mais en fait, c'est du semi-aéré, ce truc-là. On voit bien, c'est translucide, et on voit des petites bagues. Hein, quand on regarde de côté, comme ça, c'est creux. D'accord ? Donc ça, c'est du semi-aéré. On voit ici l'âme du coaxial, qui est là. Et à l'intérieur, voilà comment c'est foutu. Donc il y a ce tube-là, je suppose que c'est du téflon, sans être certain, mais je pense que c'est du téflon, ça. Donc un tube, et à l'intérieur de ce tube téflon, il y a donc l'âme avec des petits, des entretoises en fait, qui permettent à l'âme de rester bien au milieu de mon tube en téflon. Hein, donc ça, c'est un bout de mon câble comme ça, complètement démonté. Et tous les câbles sont grosso modo faits de la même manière. Je reviens sur mon PDF. Donc tous les câbles sont faits de la même manière. Alors je vous ai pas mis de câble coaxial classique, mais voilà, ça va marcher exactement de la même manière. Donc ça, c'est du câble coaxial. Il y a deux conducteurs, donc il y a ma tresse extérieure et il y a mon âme à l'intérieur. Comme on voit bien que c'est quelque chose qui n'est pas symétrique, on va appeler ça une ligne de transmission asymétrique. Le A, c'est donc le A privatif pour dire que ce n'est pas symétrique. Hein? Et typiquement, du câble coaxial, c'est une ligne de transmission qui n'est pas symétrique. Puisque, bah, vous voyez bien, il y a d'un côté un tube et à l'intérieur un fil. Donc, c'est pas symétrique. En revanche, on peut avoir aussi des lignes de transmission qui sont symétriques. Et c'est typiquement ici, ça j'ai une photo que j'ai trouvée sur Internet, c'est ce qu'on appelle ici de l'échelle à grenouille ou de la ligne bifilaire. Ligne bifilaire, on comprend bien ce que ça veut dire. Hein, bifilaire, j'ai deux fils. Et donc ces deux fils qui sont strictement identiques, du coup cette ligne va s'appeler une ligne symétrique. Et cette ligne, ces deux fils là, ils vont être séparés soit ici par du vide, ou de l'air, en l'occurrence, ou ici par une sorte d'entretoise en isolant. Alors l'isolant, ça peut être du polyéthylène, la plupart du temps c'est du polyéthylène, mais ça peut être aussi autre chose. Et c'est aussi d'ailleurs le revêtement ici du câble, du conducteur qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Et vous avez aussi des fois des lignes bifilaires qui sont pleines, c'est-à-dire sans trou ici. Et ce qui va différencier les différentes lignes bifilaires, eh bien ici, c'est l'écartement entre les deux fils. Et puis le fait qu'il y ait ou pas ici du jour, s'il y a du diélectrique partout ou pas. D'accord ? Donc les termes, c'est quoi ? C'est les termes techniques, c'est conducteur. Donc j'ai ici deux conducteurs qui sont identiques, donc c'est symétrique. Ici j'ai deux conducteurs qui ne sont pas symétriques, donc c'est une ligne asymétrique. Et à chaque fois, pour isoler mes deux conducteurs, j'ai ce qu'on appelle du diélectrique. C'est le même mot qu'on va utiliser dans les condensateurs pour définir ce qui isole les deux côtés de mon condensateur. C'est le même mot. Et donc, quand on veut représenter à quoi correspond une ligne de transmission, en fait, la ligne de transmission, elle est constituée de quoi ? C'est raté, ça. Elle est constituée de bobines en série. Alors, la bobine, en fait, c'est le fil rectiligne qui a une inductance, alors faible, c'est vrai, mais il a une inductance par mètre. D'accord ? Et on a aussi en dérivation, on a ici l'effet condensateur. Le condensateur, on le sent bien ici dans le cas du coaxial, donc c'est l'effet condensateur entre l'âme et la tresse, Hein, donc là, il y a un condensateur, mais il y a aussi un condensateur ici entre mes deux fils. Hein, sur les faces internes de mes deux fils de ma ligne bifilaire, eh bien, c'est un condensateur avec une faible valeur, ok, mais c'est un condensateur quand même. Évidemment, c'est beaucoup, une valeur beaucoup plus importante ici dans le cas du câble coaxial. Donc ça, c'est mes deux composants importants, et donc il y a une certaine valeur d'inductance par mètre et une certaine valeur de capacité par mètre dans un câble coaxial. Ça, c'est défini par le constructeur. Le constructeur, il a fabriqué son câble et puis il sait combien il y a d'inductance par mètre et combien il y a de capacité par mètre. Et c'est ce rapport ici d'inductance et de capacité qui va déterminer l'impédance du câble. Autre élément qui sont importants dans la détermination du câble, ce sont deux résistances. Une résistance ici en série avec la bobine, qui est en fait la résistance du fil de la bobine, comme on a déjà vu. Ça, c'est typiquement la résistance ici liée à l'effet de peau. Hein, plus la fréquence qui va passer dans mon câble coaxial va être importante, plus ici cette résistance R2 va être importante. Et c'est ça, c'est cette résistance R2 qui va faire que quand plus je monte en fréquence, plus j'ai d'atténuation dans mon câble. C'est cette résistance R2 à qui ça qui me fait le qui me fout le cirque. Et puis j'ai aussi une résistance ici R1, donc ici en dérivation. Et cette résistance-là, en revanche, elle doit être très élevée. Et en fait, c'est la résistance de fuite de mon isolant. Parce que mon isolant, il est isolant sur le papier, mais dans la vraie vie, il n'isole pas complètement. Et donc, il a une résistance de fuite, et c'est cette résistance de fuite qui est mesurée ici. Et plus la fréquence augmente, devinez quoi, plus la résistance de fuite diminue. Et donc, ça contribue encore une fois, puisqu'il y a une partie de la HF qui va partir ici à la masse, et qui donc n'arrivera jamais à l'antenne. Et donc là, on a ce système-là qui est reproduit régulièrement, et plus évidemment mon câble coaxial est long, en longueur physique, plus il va avoir une inductance importante et plus il aura aussi une capacité importante. Et c'est ce rapport inductance-capacité, et plus exactement la racine carrée de ce rapport, qui va me donner l'impédance caractéristique du câble. D'accord ? Ça, c'est le truc assez simple. Compliquons les choses. Donc la valeur, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, la valeur des résistances détermine la qualité de la ligne, et cette qualité de la ligne, elle va se définir par sa perte. C'est le fameux affaiblissement linéique dont on a déjà parlé quand on a fait la partie réglementation. Et donc cette perte, elle est donnée par le constructeur, souvent en décibels pour 100 mètres, parce que les constructeurs vendent des couronnes, des rouleaux de 100 mètres de câble. Et donc ils donnent la valeur de l'affaiblissement, la perte, en décibels pour 100 mètres, mais ils le donnent pour différentes fréquences, puisque on a vu que plus on augmente la fréquence, plus les pertes sont importantes. Donc en fait, il va donner différentes fréquences et même des fois des courbes pour dire sur telle fréquence ça fait telle atténuation, etc., etc. Et plus on monte en fréquence, plus l'atténuation est importante. Et donc c'est mes fameux affaiblissements linéiques qui sont donnés en décibels. Dans les questions d'examen, toutes les questions d'examen, on parle de décibels par mètre. Mais c'est vrai que c'est quand même plus logique, parce que le décibel pour 100 mètres, c'est bien encore un truc de vendeur. Alors, Vous me direz, la différence, c'est quoi? C'est juste une différence de 100, hein, parce que la perte pour 100 mètres, et, enfin, quand on a la perte pour 100 mètres, pour obtenir la perte pour 1 mètre, bah, il suffit de diviser par 100. Hein. Donc ça, décaler la virgule de 2 crans, je pense que vous allez savoir se faire, sans sortir votre calculette. Évidemment, la perte n'a strictement aucun rapport avec l'impédance. Je m'explique, si vous prenez enfin, l'impédance qui est ici, c'est juste le rapport tension divisé par intensité qui passe dans le câble. Le câble coaxial a cette caractéristique très particulière de toujours que les tensions et les intensités dans le câble coaxial sont toutes liées. On verra que ça pose des problèmes ce truc-là. Enfin, un câble de 50 ohms, il ne peut faire passer qu'un rapport tension sur intensité de 50, donc 50 ohms. Et c'est cette valeur, alors la qualité se définit par sa perte. C'est presque philosophique, effectivement. C'est de la philosophie physique. Oui, l'impédance caractéristique, si jamais vous trouvez une résistance, hein, j'ai bien dit résistance, qui fait 50 ohms dans le câble quelque part, surtout vous le jetez votre câble. Parce que quand on mesure les deux conducteurs, il doit y avoir 0 ohm, et entre les deux conducteurs, il doit y avoir l'infini. C'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir de résistance. Donc, votre instrument de mesure, il doit marquer out of log. Sinon, ça, c'est pas bon. Et en tout état de cause, résistance-impédance, même si on utilise la même unité, l'ohm, ce sont deux phénomènes qui n'ont rien à voir. Une résistance, ça chauffe. Un câble coaxial, digne de ce nom, ne doit pas chauffer. Et en revanche, dans le câble coaxial, on a toujours, et je dis toujours souligné autant de fois que vous voulez, en rouge, en gras, dans le câble coaxial, il ne passe qu'une seule impédance, celle qui est indiquée sur le câble, et dont ici, on a le rapport qui est fonction ici des caractéristiques techniques du câble, donc la racine carrée de L divisé par C. Et ça, ça marche tout le temps. Une fois que vous avez ça en tête, c'est important parce que derrière, on va comprendre tout ce que ça engendre. Donc la perte, encore une fois, n'a rien à voir avec l'impédance. C'est pas parce que vous avez une impédance de 75 ohms que vous avez moins de pertes. Rien à voir, ou plus de pertes. Ça n'a strictement rien à voir. En revanche, ce qui a à voir avec la perte du câble, c'est peut-être sa grosseur, enfin son diamètre. On peut supposer que plus le diamètre est important, moins les pertes sont importantes quand on est en... Et de toute façon, les pertes, elles sont aussi valables en émission qu'en réception. C'est-à-dire que si vous avez des pertes, je dis n'importe quoi, de 12 dB, donc vous les avez en émission, donc vous perdez 12 dB de votre puissance d'émission, mais vous les avez aussi en réception. Et donc un petit signal, du coup, il est en plus atténué de 12 dB quand vous passez par votre câble coaxial. C'est quelquefois un petit peu dommage, parce que du coup, le correspondant, on ne l'entend plus. Alors, on en arrive à notre gros problème, c'est que pour que ça fonctionne à câble coaxial, il faut absolument ressouligner encore autant de fois que vous voulez que les courants à l'intérieur des deux fils soient strictement égaux, mais déphasés de 180 degrés. Je m'explique. Et ça, que ce soit en tension ou en intensité. Là, j'ai pris un câble coaxial, mais c'est valable aussi sur la ligne bifilaire. Et dans ce cas-là, sur la ligne bifilaire, ce sont les côtés des deux conducteurs qui sont en vis-à-vis. Et c'est donc dans ces conducteurs-là que vont passer les deux courants qui vont être égaux et de sens contraire. Donc, ici j'ai un courant ici dans mon âme, qui est ce qu'il est, et dans ma tresse, je vais avoir un courant de même valeur, mais en sens contraire. Ici je vous ai mis l'intensité, mais vous avez la même chose quand il s'agit d'une tension. Lorsque vous avez une tension positive sur l'âme, vous avez une tension négative à l'intérieur de la tresse. D'accord ? Et ce doit être strictement égal et de sens contraire. C'est ce que l'on appelle des valeurs conjuguées. Donc, donc ce système-là, alors dans un câble coaxial, comme les courants sont à l'intérieur, c'est-à-dire le courant d'âme comme le courant de gaine, le courant de gaine, en fait, il va se balader à l'intérieur de la gaine. Si bien que ce système-là, en fait, il rayonne pas, puisque tout le courant, d'une part, il est égal et de sens contraire, donc il ne peut pas rayonner. Il ne pourrait rayonner que s'il n'y avait qu'un seul courant que dans un sens, comme dans une antenne. Dans une antenne, vous n'avez qu'un seul fil qui, lui, va rayonner, puisqu'il n'est pas contrecarré par l'autre. Ça, c'est mes deux courants qui sont ce qu'on appelle en mode différentiel. Et au cas où mon antenne ne soit pas complètement adaptée, c'est-à-dire que, par exemple, j'ai sur mon doublet, j'ai un doublet qui est d'un côté accroché à, un lampadaire, un truc bien en métal, donc conducteur, etc., et de l'autre côté sur un arbre, eh ben vous êtes certain que votre antenne elle va pas être équilibrée, donc que les courants à l'intérieur de l'antenne ne vont pas être strictement identiques, et donc au point d'alimentation, là où vous branchez votre câble, eh bien vous êtes certain de ne pas avoir les mêmes courants strictement identiques qui proviennent de l'antenne. Parce que je le rappelle quand même, mon antenne, elle est reliée d'un côté à l'âme, donc un fil qui est relié d'un côté, un fil de l'antenne qui est relié à l'âme, et le fil du deuxième brin qui est relié à la tresse. On va supposer qu'on n'a pas de balloon pour le moment. On viendra après avec les balloons. Pour le moment, on fait simple. Ça marche, mais le problème, c'est que si votre antenne n'est pas équilibrée, vous êtes certain que les deux courants à l'intérieur ne vont pas être équilibrés. D'ailleurs, au passage, si vous remarquez bien, vous avez le courant qui arrive ici du premier brin rayonnant de votre antenne qui rentre ici, et de l'autre côté, il y a le même courant qui en sort et qui repart dans l'autre sens. Donc on a l'impression dans votre antenne que le courant continue comme ça, continue à se déplacer, sauf que comme c'est coupé au milieu et qu'il y a une partie du courant qui rentre, le courant qui rentre et le même courant qui ressort, finalement, ce sont deux courants, enfin, ce ne sont pas les mêmes électrons qui se baladent d'un côté et de l'autre. Voilà. Et on a l'impression de loin, comme ça, que c'est le cas. Alors que c'est faux. Donc, là, si mon antenne n'est pas adaptée, alors, cela ne rayonne pas car l'effet des courants électromagnétiques, des courants s'annule. Alors, pas vraiment, parce que dans le cas du câble coaxial, encore une fois, les courants sont à l'intérieur. Donc, ça ne peut pas rayonner puisque c'est à l'intérieur du câble. Et lorsque vous êtes dans une ligne bifilaire, en fait, ils vont se balader de chaque côté, ici. Donc, une ligne ici, là, ils vont se balader. En fait, en face à face, dans les deux lignes, dans les deux conducteurs de la ligne bifilaire. Et encore une fois, ça ne va pas rayonner puisque mes deux intensités et mes deux tensions sont strictement égales et de sens contraire. Donc les deux vont s'annuler. Et donc ça ne rayonnera pas. Si et seulement si l'antenne est parfaitement symétrique. Si elle n'est pas symétrique, à ce moment-là, il va y avoir un courant supplémentaire qui va se balader finalement ici à l'extérieur, et c'est ce qu'on va appeler le courant de gaine. Alors, quand c'est du câble coaxial, on comprend bien que c'est la face extérieure de la tresse où on va avoir ce courant. Comme il ne va pas être annulé par un deuxième courant de sens inverse, vous ne vouliez pas faire, et ben vous allez le faire quand même. C'est-à-dire que du coup, votre système antennaire, ça va être votre antenne, heureusement, mais aussi quelque part un petit bout de votre câble coaxial, plus ou moins selon que vos antennes, selon que votre antenne est plus ou moins bien adaptée. Ça, c'est valable en tension et en intensité. C'est aussi valable, je vous ai dit tout à l'heure, que dans mon câble coaxial, je dois avoir une stricte relation entre la tension et l'intensité. Si mon antenne ne fait pas mes 50 ohms de mon câble coaxial, eh bien, il y a une partie du coup, une partie du courant qui va être en excédent et qui donc, lui, va se balader, encore une fois, à l'extérieur. Ou si ou aussi à l'intérieur, mais du coup il va aller à l'envers. On va voir quand on va parler des adaptations. En tout cas, ça pose des problèmes. Et je ne vous parle pas des déphasages que éventuellement vous pouvez avoir au niveau de l'alimentation de l'antenne. Parce qu'encore une fois, un déphasage qui est... Alors le 50 ohms, c'est 50 ohms et on se moque du déphasage entre tension et intensité. C'est-à-dire que le câble coaxial, lui, il veut 50 ohms, quel que soit, c'est pas une réactance qu'il veut, c'est une impédance. Donc, quel que soit l'ensemble, lui, il veut voir une certaine impédance, quel que soit le déphasage. Quand il y a un déphasage, encore une fois, ça va générer un courant extérieur. Et donc, voilà le. Alors, quand on a les courants comme ça qui sont dits conjugués, on appelle ça les courants en mode commun, et les courants ici non conjugués, on appelle ça les courants gaine ou le mode commun. Différentiel ici quand ils sont conjugués, le mode commun ici lorsque les courants ne sont pas conjugués, c'est-à-dire les courants d'excédentaire. Ici, là, j'ai deux courants qui ne sont pas extrêmement conjugués, ici en valeur. Donc le système ici va les rendre ici égaux parce que ça, c'est caractéristique de l'interdiction. Elle va passer ici dans le courant de gaine. Et donc pour éviter ce courant de gaine, eh bien on va faire en sorte de plusieurs systèmes, dont ce qu'on appelle le choc balou, c'est-à-dire qu'en fait on va mettre de la ferrite autour du câble coaxial pour essayer de limiter ce courant de gaine. Tout au moins que le courant de gaine ne revienne pas jusqu'à l'émetteur et qu'il pose d'autres problèmes. C'est pour ça qu'on appelle ça choc balloon. Alors, j'ai peut-être un peu trop de gain. Je réduis le gain micro. Je ne sais pas si ça pose problème. J'étais au maximum, donc c'est peut-être ça qui faisait craquer. Donc ce choc d'alune là va faire en sorte de limiter le courant de gaine et donc de protéger entre guillemets va être très méchant au niveau de l'émetteur, de la protection de l'émetteur. Un récepteur ne va pas le gêner, si ce n'est qu'il va avoir un rendement moindre, mais un émetteur, ça ne va pas aimer du tout. Donc si un signal est appliqué à l'entrée de la ligne, un signal de même impédance se retrouvera à la sortie. Évidemment, si on néglige les pertes.
Si et seulement si la ligne est bouclée sur une résistance ou sur une charge réactive égale à l'impédance de la ligne.
C'est important parce que si vous n'avez pas la même impédance en sortie, c'est-à-dire si vous n'avez pas une résistance, une charge qui fait en sorte que que la puissance émise est absorbée par la charge, et donc que cette impédance de la charge soit égale à l'impédance du câble, eh bien on va au-devant des problèmes. On va voir pourquoi tout à l'heure. Donc l'impédance de ma ligne, c'est ma loi de Maxwell, c'est en fait cette formule ici, c'est l'impédance d'un milieu de propagation. L'impédance du milieu de propagation, c'est donc racine carrée de ZL multiplié par ZC. Et ça, on va la retrouver partout, cette formule-là. Vous allez voir. On va la retrouver partout. Donc, ce racine carrée de ZL multiplié par ZC, je remplace ZL par ZC. Donc, ZL, c'est oméga L et ZC, c'est oméga C. Et si bien que ça me fait donc racine carrée de L divisé par C.
Par exemple, ici,
j'ai un câble coaxial qui fait 0,5 microhenri par mètre et 200 picofarad par mètre. C'est gros, ça, c'est typiquement du câble 11 mm. C'est ces valeurs-là à quelque chose près. Et donc, on peut chercher l'impédance de ce câble coaxial à pour cette impédance-là, donc je sors ma calculette. Je vais me mettre ici sur ma calculette. J'ai encore mon reflet, comme d'habitude. C'est mieux comme ça. C'est mieux comme ça. On. Donc, la formule, donc, c'est racine carrée de L divisé par C. Donc, je fais racine carrée, seconde racine carrée. Il est où ? Racine carrée, 0,5 microhenri, donc 0,5 multiplié par 10 puissance moins 6, hein, ce sont des microhenri, que je divise par 200 picofarad, donc 200 multiplié par 10 puissance moins 12. Donc ça, évidemment, ce sont des valeurs par mètre, mais voilà, si vous prenez pour 100 mètres ou pour 1 cm, ça va donner finalement toujours le même rapport. Je ferme ma parenthèse, je fais exé, et ça me donne donc 5 10 puissance 1, donc 50. Voilà le résultat. Je reviens ici sur mon PDF. Désolé pour le son, hein, parce que je ne sais pas trop ce que je peux faire, ce que je dois faire surtout. Donc j'espère que ça ne sera pas mauvais au niveau de l'enregistrement. Désolé pour la qualité du son ce soir. Autre manière de calculer l'impédance d'une ligne, c'est à partir de des dimensions de la ligne. Et ça va être aussi des questions posées à l'examen. Donc je vous ai pas aussi parlé d'un autre type de ligne de transmission que je vais vous montrer ici, voilà, qui s'appelle des microstrips, qui est représenté ici. Ça c'est une photo. En fait c'est une piste ici, une piste en cuivre, et donc ça c'est un des conducteurs, et le deuxième conducteur en fait c'est la semelle en dessous. Là ici on a un plan de masse. Et donc ça ressemble à une ligne qui permet d'alimenter un rosmètre, hein. Ça ressemble étrangement. Donc ici c'est une ligne, en fait on prend une partie de l'énergie ici dans ce secondaire en fait. On va dire que c'est un secondaire. Ici c'est un transfo, hein, donc on a nos deux lignes, et la semelle en fait c'est du cuivre, et donc c'est ce qui fait le deuxième conducteur, hein, donc ce qu'on appelle le microstrip, c'est ça, et ça donc ça a une impédance, et ça se calcule, on va voir cette impédance. Donc vous avez deux grandes familles, donc le câble coaxial où la valeur du câble, ça va être fonction des dimensions. Donc on a deux dimensions importantes. On a deux dimensions importantes qui sont la dimension intérieure ici de ma tresse, et le diamètre ici de mon âme. D'accord ? Et évidemment, ici, là, j'ai mon isolant, mon diélectrique qui est là. Lorsque c'est du coaxial rond, comme ça, la formule, c'est 138 divisé par la racine carrée de epsilon. Donc ici, c'est la racine carrée du diélectrique, de la valeur du diélectrique. Le diélectrique, ça va marcher comme pour le diélectrique du condensateur. Hein, c'est le même epsilon, sauf que là, on n'en prend que la racine carrée. Et puis donc ici, on a le diamètre de l'âme, et donc l'impédance du câble, de ce câble-là, c'est donc 138 divisé par racine carrée de E, multiplié par log de grand D divisé par D. Et ça, il y a des questions à l'examen dessus, des questions y compris sur le calcul. Alors, pas, il n'y a pas cette histoire ici de diélectrique, c'est-à-dire qu'on suppose que le diélectrique, c'est de l'air, mais 138 multiplié par log de D sur D, et quand on a un diélectrique, il faut le prendre en compte. Alors, pour votre information, F5, ça permet de relancer le programme en cours. Donc c'est peut-être ça, tout simplement, c'est peut-être YouTube qui pose problème ce soir, je ne sais pas pourquoi. Et donc là, je vous ai mis les principaux, je vais vous les rappeler plus tard, les coefficients diélectriques. Pour le vide, c'est 1. Lorsqu'on a de l'air avec peu d'écarteurs, c'est 1 à 1,2. 2,3 pour le téflon, 2,1 pour le téflon, 4,5 pour la fibre de verre. La fibre de verre, donc, c'est pour notamment les strips, les microstrips, hein, puisque vous avez une épaisseur. Et donc là, le, la valeur ici pour une ligne bifilaire. Il faut prendre la distance ici, alors pas entre les deux faces, mais les entr'axes. Alors, il ne doit pas y avoir grande différence. Voilà, donc la différence entre les deux axes ici de mes deux fils et le diamètre ici de mon conducteur, en supposant que les deux sont bien identiques. Et donc dans ce cas-là, c'est non pas 138, mais 276, donc ça double, multiplié par log de 2 fois D, donc le grand D, là, 2 fois grand D, petit d, donc le diamètre. Voilà. Et donc, ça vous donne donc l'impédance de la ligne bifilaire. Et puis le strip line, donc lui, on reprend le 138 de coaxial, et on multiplie par log de 4D, donc ici, c'est l'épaisseur ici de mon fil électrique, divisé par L, la largeur ici. Et donc, quand on applique ça en fonction des isolants qu'on utilise, quand on utilise du polyéthylène, ce qu'on utilise très souvent dans le cadre du coaxial rond, une impédance, voilà, et en plus derrière on a la vélocité. La vélocité, elle va dépendre de du diélectrique qu'on va utiliser, parce que on va voir par la suite que la vitesse de la lumière c'est égal à 1 divisé par racine carrée de L multiplié. Là, c'est la formule de 300 000 km par seconde. Là, c'est issu de cette valeur-là pour l'air ou le vide. Ce qui veut dire que si on utilise un diélectrique, la valeur de mon condensateur, bien que si le coefficient diélectrique multiplié par le coefficient diélectrique. Ici j'ai une racine carrée, donc il va falloir que je diminue finalement par la racine carrée de mon coefficient diélectrique. Donc c'est assez compliqué à concevoir, mais voilà d'où vient l'explication de cette formule, en disant que le coefficient de vélocité, c'est-à-dire que dans un câble coaxial, la vitesse des ondes n'est pas de 300 000 km par seconde, elle est beaucoup plus lente à cause de mon diélectrique. Et à cause ici de ma loi, ça c'est Maxwell qui a sorti cette superbe loi. La vitesse de la lumière, elle dépend complètement de l'inductance et de la capacité par mètre du vide qui se mesure. Et comme ici ma capacité ma capacité par mètre, elle est du coup supérieure, puisque ici j'ai mon diélectrique, et bien du coup la vitesse est plus faible. Je vous ai mis grosso modo les vitesses selon les vitesses de propagation des ondes dans le câble. Alors encore une fois, la vitesse de propagation n'a strictement rien à voir avec l'impédance ou avec les pertes. C'est encore une autre caractéristique, mais ce n'est pas parce que vous avez plus de pertes que les ondes à l'intérieur du câble iront moins vite. Elles seront plus atténuées, c'est tout. Donc voilà, c'est pour que vous mettiez bien, pas de questions à l'examen là-dessus, heureusement, parce que sinon, là, on a des pertes, pour ça que je vous ai mis ça en italique. Mais voilà. Et n'oubliez pas cette formule là qu'on va revoir dans pas longtemps. Et donc la conclusion, c'est que les ondes se propagent moins vite dans du câble coaxial, puisqu'on va utiliser du téflon ou du polyéthylène, et ça rend la vitesse est aux alentours de 66%. Lorsque vous avez du câble semi-aéré, comme je vous ai montré tout à l'heure, où ça ressemble aussi un petit peu une sorte, pas d'éponge, mais une matière un petit peu, du papier à bulles, enfin, des bulles d'emballage, là, ça ressemble un petit peu à ça, c'est du popachan, ça s'appelle. Alors, c'est encore un câble un peu particulier, parce qu'il ne fait pas 11 mm, il fait un tout petit peu moins, et on a du mal à trouver les prises qui permettent de le brancher, tout simplement, hein. Puisque la plupart des prises, soit c'est du 6 mm ou du 11 mm, mais pour le popage 100, faut acheter les prises qui vont bien avec. Sinon, vous allez galérer pour le raccorder. Ça marchera moins bien. Et donc, pour du semi-aéré, c'est environ 80%. Ça ne change rien du tout à la qualité du câble. C'est pas parce que il a moins de pertes que ça va plus vite dedans. Hein. Ça n'a rien à voir. Pour de la ligne bifilaire, la plupart du temps, c'est des écarteurs. Donc, c'est pour ça, c'est entre 1,2, entre 1,1 et 1,2. Donc, ça fait une vitesse de propagation des ondes de 95%. Et dans la strip line, ben, compte tenu que j'utilise ici du téflon, eh bien, je vais avoir ici, ou de la bakélite, hein, je vais avoir ici un coefficient de vélocité d'environ 50%. Alors, en fait, on va voir à quoi la conséquence de cette vitesse de propagation réduite un petit peu après. C'est pour calculer mes longueurs de coaxial, puisque je vais avoir encore une fois des problématiques liées à la longueur et au quart d'onde ou au demi-onde, puisque je vais avoir des phénomènes qui vont se passer à ce moment-là. Ici, je vais vous donner les principaux diélectriques utilisés, ce qui donne ici leur vélocité. Hein, voilà. C'est estimatif, hein, un circuit. Il faut regarder vraiment ce que dit le constructeur. Mais si vous ne trouvez pas la référence du constructeur, et ben voilà, ça vous permet comme ça de vous y retrouver. Alors, comment on reconnaît le téflon par rapport au polyéthylène? Le téflon ne brûle pas, alors que le polyéthylène, si vous le mettez sous la flamme, il a tendance à brûler. Alors que le téflon, il fond. Sans faire de flamme. Voilà. Alors, je vais en parler rapidement, le guide d'onde. Le guide d'onde, c'est pas à proprement parler une ligne de transmission. Pourquoi ? Je vais vous montrer pourquoi. C'est qu'en fait, c'est plutôt un système où il y a c'est un milieu de propagation. C'est-à-dire que, je vais vous passer à la webcam, à chaque bout d'un guide d'onde, il doit y avoir ce qu'on appelle une transition, qui est une sorte d'antenne qui transforme le courant électrique en champ électromagnétique. Et après, une fois que c'est dans le champ électromagnétique, eh bien ce champ électromagnétique, on le guide dans le guide d'onde, justement. D'où le nom. Alors, voilà, on voit à l'intérieur, au fond, là, parce que ça, c'est mon guide d'onde. Il est là, mon guide d'onde. Ici, j'ai une belle fiche N, un peu corrodée, mais enfin bon, c'est une belle fiche N, ok. Là, on la voit. Et donc, au bout de la fiche N, à l'autre bout, là, il y a ce qu'on appelle la transition. Et c'est cette transition qui est au fond, le petit morceau blanc, là, qui est donc l'antenne qui va transformer le champ électrique en champ électromagnétique. Et c'est ce champ électromagnétique, après, qui va se balader réfléchissant sur les parois de mon guide d'onde. Donc là, ça c'est un début. Après, j'ai des morceaux qui peuvent être tout droits, hein, Alors évidemment, il faut faire attention ici à ce que ce soit parfaitement aligné, c'est-à-dire que le morceau qui a à la suite, il soit qu'il n'y ait pas de frottement, quoi, qu'il soit bien bien aligné par rapport à celui d'avant pour éviter que les ondes se réfléchissent et du coup partent un peu n'importe où. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une transition. Vous avez alors, évidemment des morceaux qui sont tout droits et vous avez des morceaux ici, par exemple, ici, ça c'est un coude. Donc là, je ne sais pas si on voit le coude. Voilà, on voit la lumière au fond. Voilà la lumière au fond. Donc ça, c'est un coude. Et voilà un coude, comment c'est foutu. Voilà. Donc les ondes, elles se réfléchissent sur toutes les parois. Alors évidemment, c'est pas les mêmes. On voit bien que là, ce sont pas les mêmes les mêmes guides d'ondes. Donc évidemment, l'un ne va pas avec l'autre. Il faut que ce soit tout de la même dimension. Oui, c'est exactement comme les fours micro-ondes. Et ça va être intéressant pour tout ce qui est vraiment très grande fréquence. On va voir la manière de calculer la fréquence minimum que peut transférer un guide d'onde. Donc voilà, ça c'est encore un coude, encore une transition, peut-être un peu mieux celle-là, cette transition. Ouais, parce que celle-là, elle se démonte. Voilà. Celle-là, la transition, là, elle se démonte ici. Alors, j'ai pas réussi à... Ah si, voilà. Elle se démonte. Donc, on peut la... voilà, on peut récupérer la transition qui est là. Donc, celle-là, ça peut... Ça, c'est du vieux matériel. Hein. Je suppose que je vais récupérer ça. Évidemment, c'est hors d'usage. Et donc, là, vous avez... Ça, c'est une fente, ça. Donc là, vous avez une atténuation qui se fait là-dedans. Voilà, qu'est-ce que j'ai encore? Voilà, une autre... Bon. Ah ben voilà, celle-là. Voilà, ça c'est... Ici, une transition, et donc là il y a la petite diode, ça c'est la diode gun qui est là, qui va générer ici le courant. Voilà, donc, hop, je remets ça en place. Qu'est-ce que j'ai encore? Et là je vous ai sorti, alors c'est quasiment comme, donc ça c'est une tête de cette, pour les satellites, hein, une tête de lecture qu'on met devant les paraboles. Hein, donc c'est complètement désossé. Hein, je vous ai pas ici. J'ai retiré, il y avait le circuit qui était ici, hein, qui a été retiré. Et par contre, ce qui m'intéresse, moi, c'est que à l'intérieur, on le voit bien là, il y a mes deux antennes qui sont en fait les transitions. Et donc au bout, c'est au bout de mon guide d'onde, eh ben, j'ai mon antenne. Donc j'ai une antenne qui est horizontale, que je vais mettre horizontale comme ça, qu'on voit bien. Une antenne horizontale et une petite antenne verticale. Une antenne horizontale qui fait toute la longueur, et une antenne verticale qui fait juste la moitié. Et donc c'est ce qui permet comme ça de récupérer le canal vertical et le canal horizontal d'une antenne, enfin d'un satellite, hein, puisque il envoie soit des signaux en polarisation horizontale ou en polarisation verticale. Et donc c'est ces deux antennes au fond avec le système qui est là, qui maintenant que j'ai retiré, qui permet comme ça de récupérer les deux polarisations. Il doit y avoir encore un peu de circuit derrière là. Ah oui, il est encore un peu derrière. Il est encore un peu derrière. Voilà. Donc je reviens ici sur mon PDF. voilà, fibre optique, bah, j'ai pas récupéré mon petit bout de fibre optique, mais ça marche un petit peu comme un guide d'onde, sauf que, déjà, un, c'est des fréquences optiques, donc c'est plus des fréquences radio, et deuxièmement, ça marche un peu de la même manière, c'est-à-dire que les ondes, elles vont se propager à l'intérieur, ici, d'un morceau de fibre. Alors c'est, auparavant, c'était de la fibre de verre, maintenant, c'est de la fibre optique, donc je ne sais pas trop ce que c'est comme matériau. En tout cas, c'est très fragile, et donc c'est protégé. Voilà, il y a des tas de protections autour pour éviter, notamment, de trop la courber, parce que automatiquement ça casse quand on courbe de trop. Voilà. Et donc de la fibre optique, ça a ça a le diamètre d'un cheveu, pas plus. Et encore une fois, ça marche comme un guide d'onde, c'est-à-dire que les ondes lumineuses là se réfléchissent sur la surface et restent donc guidées à l'intérieur de ma fibre. Je reviens. Hop. Alors, une question qui m'avait été posée et j'avais séché, donc j'ai fait des recherches et j'ai retrouvé un vieil article de Radio Ref. Pourquoi une impédance de 50 ohms pour le câble coaxial d'émission? Parce que je rappelle quand même que en fait, il y a deux sortes de câbles coaxiales, le câble coaxial d'émission qu'on va utiliser qui est de 50 ohms et du câble coaxial de réception qu'on va utiliser essentiellement en télévision et aussi pour les descentes satellites. Quand on a une parabole et qu'on a le démodulateur on va à l'autre bout, donc on va utiliser dans les deux cas un câble de 75 ohms. Alors pourquoi cette impédance? Eh bien en fait, ça a été défini dans les années 30, et on s'est aperçu que, je vais vous zoomer un peu ça parce que, voilà. En fait, on s'est aperçu que il y a eu des essais qui ont été faits avec différentes valeurs de câble coaxial. L'idée du constructeur aussi, c'était de trouver une valeur qui soit intéressante industriellement à mettre en œuvre. C'est-à-dire que ça coûte le moins cher possible, en clair. Et donc, ils ont essayé différents types de coaxial. Et ils ont regardé les caractéristiques de ce câble coaxial. Ils se sont aperçus que il y a plusieurs choses. Il y a d'une part le maximum de puissance qui est applicable, puissance et tension, les deux. Voilà. Et d'autre part, le minimum de perte. Quel câble apporte le minimum de perte? Et ils se sont aperçus que ce qui va nous intéresser, nous, à l'émission, c'est de transporter le maximum de puissance. Et donc, ou le maximum de tension, l'un ou l'autre. Et donc, en fait, le maximum de puissance, c'est avec un câble, ici, qui ferait 30 ohms, et le maximum de tension, c'est avec un câble qui ferait, grosso modo, 60 ohms. Et donc, ils se sont retrouvés à faire des câbles qui font 50 ohms. Et donc, il est là. Oui, l'idée du constructeur, c'était de créer un câble qui fasse 10 mm de diamètre. Bon, le nôtre, il fait 11 mm, mais voilà, c'est qu'après, ils ont dû, je suppose, rajouter la gaine de protection autour pour arriver aux 11 mm. Enfin, en tout cas, voilà, ils cherchaient quel était le meilleur compromis pour un câble de 10 mm de diamètre et quelle est l'impédance qui va faire passer le plus de puissance ou le plus de tension. Et donc, ils en sont arrivés ici entre 30 ohms et 60 ohms, on va dire. Donc on a ici avec nos 50 ohms. Et pour la valeur du câble ayant le minimum de perte, eh bien en fait ici le minimum il est à 77 ohms. D'où l'utilisation d'un câble de 75 ohms pour la réception, puisque ce qui nous intéresse dans la réception, c'est d'avoir le minimum de perte. Alors Bernard qui dit, c'est peut-être aussi parce que les antennes ont des impédances plus ou moins une vingtaine d'ohms selon l'antenne verticale ou la demi-onde. Alors effectivement, il y a aussi cet élément-là, mais je suis certain que connaissant nos industriels, ils ont fait en sorte de trouver le système le plus économique possible. Tout ça pour vous dire après que c'est pour votre bien puisque vous le payez moins cher. Voilà, mais je suis certain que c'est l'explication du système le moins coûteux possible. Voilà. Et encore une fois, ça a été réalisé par les laboratoires Bell, cette étude. Donc encore une fois, on retrouve les laboratoires Bell, et donc c'est une étude qui date de 1929. Donc à un moment où on cherchait un petit peu à normer tout ça. D'ailleurs, au passage, une antenne, un doublet, ça a pas 50 ohms, hein, ça a 75 ohms. Hein. Donc, et les antennes, si on a par exemple un trombone, c'est 300 ohms. Hein. Donc, ça, c'est pas complètement la bonne impédance. Après, c'est nous qui avons cherché des systèmes pour récupérer nos 50 ohms. Ou les 75 ohms dans le cas de la télévision, puisqu'ils vont utiliser du câble de 75 ohms. On revient à notre loi d'Ohm, parce qu'on ne l'abandonne jamais, celle-là. Et ça, c'est pour vous démontrer que... Alors, ça démontre, mais sans trop démontrer, parce que là-dedans, j'ai pas de câble coaxial, j'ai pas d'ondes stationnaires, j'ai rien du tout. Je n'ai que deux résistances. Hein. Une résistance qui fait 50 ohms, qui est censée être la résistance du générateur, avec en série une résistance qui ferait 25 ohms, une résistance qui ferait 50 ohms, une résistance qui fait 75 ohms ici. J'alimente toujours par 141 volts mes trois systèmes, et la question c'est de savoir lequel des trois, enfin pour laquelle des trois valeurs de résistance ici, R1, R2 ou R3, j'ai le maximum de puissance dissipée. Donc je sors ma loi d'Ohm, donc là je vous ai mis ici le calcul ici pour cette première résistance. Évidemment, vous dupliquez ce calcul-là pour les trois autres résistances, je les ai notées dans le cours, mais ici, donc vous trouvez ici 89 watts, vous trouvez pour la deuxième 100 watts, et vous trouvez pour la troisième 96 watts. Donc, pour revenir à mon transfert de puissance, donc encore une fois, le transfert de puissance est maximum. Alors évidemment, là, j'ai des résistances, j'ai pas des impédances, j'ai des résistances, mais évidemment on peut compliquer le système si je rajoute des inductances et des capacités. Ça va compliquer un peu le système, ça va devenir vite imbuvable pour des gens comme moi qui sont pas très à l'aise avec tout ce genre de manipulation mathématique, mais voilà, on retrouve de toute façon la même logique. C'est-à-dire que pour que si j'avais ici une inductance en série avec ma résistance R2, pour que j'aie le maximum de transfert de puissance, il faut que j'aie du côté de l'émetteur une capacité qui a la même impédance, mais de signe contraire. Et donc, du coup, tout va dépendre finalement de la fréquence de mon signal. Hein, parce que là, évidemment, là, je peux être en courant, continu, le système il marche de la même manière. Hein, puisque ici, là, je suis en courant continu, donc c'est pas de la radio, mais il n'empêche que je vais obtenir les mêmes résultats, et notamment en termes ici de perte de puissance due à l'adaptation, que dans un système avec des adaptations qu'on va voir tout à l'heure. Alors, c'est là que ça se complique. Les adaptations. Alors ça, c'est un truc compliqué à comprendre lorsque il y a des adaptations d'impédance. C'est-à-dire lorsque ma charge n'a pas la même valeur que l'impédance de mon câble. Que se passe-t-il ? Donc, mon courant qui est dans un sens, ici, va arriver au bout, et du coup, il ne va pas être entièrement absorbé par la charge. Imaginons qu'il fasse 40 ohms. Et que mon câble, évidemment, il fait 50 ohms, et que tout le courant qui passe dans le câble, il fait 50 ohms. Eh bien, j'ai une partie de l'intensité qui ne va pas être consommée, et de même, j'ai une partie de la tension qui va repartir dans l'autre sens. Pourquoi ? Parce que mon système va lui consommer les 40 ohms, et donc j'aurai un excédent de tension ou un excédent d'intensité, enfin bon, les deux, et donc cet excédent de tension et d'intensité vont repartir dans l'autre sens. Ils vont repartir dans l'autre sens, mais comme encore une fois mon câble coaxial, il n'accepte que les mêmes impédances, donc je vais avoir du coup, de la tension et de l'intensité, toujours de la même, avec le même rapport, mais 50 ohms, qui vont repartir dans l'autre sens, mais en déphasage. Et si bien que je vais avoir, du coup, des courants qui vont aller dans un sens, et des courants qui vont repartir dans l'autre, et ces courants, ils vont s'additionner, ils vont se superposer, s'additionner et donner ici ces ventres et ces... Alors les ventres, c'est le maximum ici et le nœud qui est le minimum, c'est ici. Donc ici, pour du 40 ohms par exemple, eh bien je vais avoir ici ma tension qui va être variable. Donc la tension elle est en bleu, je l'ai dessinée en bleu. Donc la tension elle est variable ici. C'est-à-dire, alors, variable, ça veut dire qu'ici, ce que j'ai dessiné, ce sont les valeurs efficaces. Donc les valeurs efficaces de tension et d'intensité ne vont pas être les mêmes partout dans le câble. Alors que je vous ai dit au départ, quand j'émets toujours la même impédance. J'émets pas en modulation d'amplitude, donc j'émets une porteuse sans moduler l'amplitude, donc je dois avoir strictement la même valeur de tension et d'intensité tout le temps, et avec le même rapport tension-intensité, puisque ça c'est l'impédance de mon câble coaxial. Lorsque je n'ai pas la bonne impédance ici, dans la charge n'a pas la bonne impédance, eh bien j'ai une partie de l'énergie qui repart dans l'autre sens, mais cette énergie, encore une fois, elle doit faire 50 ohms. Ça, c'est mon câble coaxial qui veut absolument 50 ohms. Et donc, le système va faire en sorte qu'il va générer de la tension et de l'intensité en retour, et c'est cette tension et cette intensité en retour qui, en se superposant au courant qui arrive, va faire ici ces variations de tension efficace. C'est-à-dire que je vais avoir une tension en bleu, une tension efficace maximum ici, minimum ici. Et de même, je vais avoir une tension, une intensité efficace minimum ici et maximum ici. Ça, c'est si j'ai une impédance inférieure ici à mon câble coaxial, enfin à ma ligne d'alimentation. Si j'avais une impédance supérieure, par exemple 75 ohms, eh bien je vais avoir l'inversion des valeurs tension-intensité. Donc ça, c'est assez compliqué à concevoir, mais voilà comment ça fonctionne. Alors, pas de questions à l'examen, heureusement, mais on va avoir des questions sur les ondes stationnaires. Et donc ces ondes stationnaires, elles sont distantes, donc le système s'inverse tous les quarts d'onde ici. Si bien qu'au bout d'une demi-onde, on retrouve la même configuration que l'on avait ici au niveau de la charge. Et même chose ici à une demi-onde, à une longueur d'onde complète évidemment. Et donc quand on parle de longueur d'onde, c'est pour ça que c'était important tout à l'heure quand je vous parlais de la vélocité, c'est que quand vous mesurez ça, en fait, il faut tenir compte de la vitesse de propagation des ondes dans le câble. Sinon, vous ne savez pas où vous en êtes. Et donc, c'est ces ondes-là que l'on appelle des ondes stationnaires, qui sont en fait, on a l'impression qu'elles ne bougent pas, mais en fait, elles le bougent dans un sens et dans l'autre, et c'est la superposition des deux qui fait que ça ne bouge pas. Alors, je vais vous montrer la figure animée pour la physique. Et donc ça, ce que je vais vous présenter ici, c'est par exemple la tension ou l'intensité, comme vous voulez. Alors, il est hop, Firefox. Je le lance. Alors, donc vous tapez figure animée pour la physique sur Internet, vous tombez dessus automatiquement. Et vous avez ici, alors c'est pas dans le rayon électricité, c'est dans le rayon onde. Vous avez un truc qui s'appelle onde stationnaire. Onde stationnaire. Voilà. Superposition de deux ondes se propageant en sens contraire. C'est exactement ce que l'on veut faire. Ici, j'ai... Alors, évidemment, c'est pas complètement adapté à notre situation, parce que cette onde-là, en fait, elle va ici se... arriver à l'autre bout, et c'est là qu'elle va repartir dans l'autre sens. Évidemment, les deux ondes ne partent pas de chaque côté. Et là, c'est pour vous montrer comment ça... Donc là, je vais vous faire du pas à pas. Alors pourquoi... Ah ouais, ah voilà, top play. Donc voilà, je vais vous faire du pas à pas maintenant. Donc là, vous voyez, les deux ondes, elles se sont rencontrées. Et là, elles se superposent, c'est-à-dire que j'additionne les deux valeurs. C'est normal, elles passent l'une dans un sens, l'autre dans l'autre. D'accord ? Et la résultante, c'est ce que vous allez mesurer, c'est ici la tension efficace. Donc ici, on y va. Et vous voyez qu'ici, la tension efficace, elle est maximum. Hein, elle est maximum à cet endroit-là, et elle est minimum ici. Voilà, ici. Là, ça bouge quasiment pas. Donc, ici, vous avez les minimums, donc la tension efficace minimum, et la tension efficace maximum, ou l'intensité efficace maximum, elle est ici. Et entre les deux, il y a quoi ? Eh bien, il y a un quart d'onde. Pause. Ah, on va mettre ça là. Voilà, on l'avance un petit peu. On voit bien qu'ici, entre les deux, ici, il y a un quart d'onde. et ici entre les deux, ici donc ici c'est un maximum, ici c'est un maximum, hein. On est bien d'accord, puisque ce sont ici des tensions efficaces que l'on mesure. Donc entre les deux ici on a un quart d'onde, et entre deux maximum ici, eh bien on a une demi-onde. Je refais le système et on voit bien comment ça se passe. Alors évidemment ici on a un système un peu perverse, à chaque fois il arrive ici, c'est-à-dire qu'on a la même valeur, la même tension émise que la tension réfléchie. Heureusement, il y en a beaucoup moins en réfléchi qu'en tension émise. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas le minimum, il y a quand même une tension, puisque c'est la tension qui est envoyée finalement. C'est la résultante qui est envoyée. Mais si on était dans le cas extrême où on n'a pas de charge au bout, eh bien tout repart à l'envoyeur. Enfin, soit pas de charge ou au contraire un court-circuit, c'est les deux possibilités, et donc dans ce cas-là, tout repart à l'envoyeur, en phase ou en déphase. Donc je ferme ça. Et je reviens sur mon PDF. Donc voilà, donc ce qui est représenté ici, là, parce qu'en plus, donc, il y a finalement le courant de la valeur qui a été consommée par ma charge. Que l'on ne voit pas ici, puisque, encore une fois, ce n'est pas complètement adapté à notre situation. Voilà, mais... En tout cas, ici, c'est ce qu'on appelle ici un ventre, donc c'est le maximum, et le nœud, il est ici. Et le nœud, c'est bien ici, à l'endroit où ça ne bouge quasiment pas. Et c'est pour ça qu'on appelle ça des ondes stationnaires, elles ne bougent pas. On a l'impression que ça ne bouge pas, c'est-à-dire que quand on mesure à l'ohm, au voltmètre, c'est toujours la même valeur au même endroit. Et on a des minimums et des maximums, donc des nœuds et des ventres. Et donc ces nœuds et ces ventres, donc ces deux valeurs-là, c'est ce qui donne les ondes stationnaires, et ça se mesure avec deux choses, soit le TOS, le taux d'ondes stationnaires, ou le ROS, le rapport d'ondes stationnaires. Évidemment, les deux sont liés. Alors, pour le TOS, donc le taux d'ondes stationnaires, c'est le rapport de la tension émise, la tension réfléchie, pardon, divisée par la tension émise, ou l'intensité réfléchie divisée par l'intensité émise. D'accord ? Alors, il y a une autre manière aussi de présenter les choses qui est ici, qui est plus la manière dont on le fait réellement avec des instruments de mesure. C'est-à-dire U maxi moins U mini divisé par U maxi plus U mini. Et donc, à chaque fois, U maxi, U mini, c'est quoi? C'est ici, ça c'est U maxi, et ça c'est U mini. Donc, le ventre et le nœud. Parce que ça peut se mesurer assez facilement. Donc, on calcule ce taux d'onde réfléchi, comme ça. Alors, le taux d'onde réfléchi, c'est le coefficient de réflexion multiplié par 100. Donc, et ce coefficient de réflexion, c'est donc ce rapport tension-intensité, tension réfléchie divisée par intensité émise, ou tension ou intensité, comme on veut. Hein. Ça marche de la même manière. Alors attention, si les valeurs sont exprimées en watts, ça ne marche plus. C'est-à-dire que là, on parle de tension émise ou réfléchie. On ne parle pas de puissance. Ça, c'est encore une autre chose. Alors, il faut savoir que les réflectomètres, les instruments ou le tosmètre, comme vous voulez, ou le rosmètre, indiquent rarement le tos, justement. Un tosmètre, c'est plutôt un réflectomètre, et donc c'est un rosmètre, puisqu'il indique rarement le tos. En revanche, il indique le taux de puissance réfléchie. Alors c'est un taux de puissance réfléchie un peu tordu, parce que c'est une valeur qui est plus qu'indicative. C'est-à-dire que ça fonctionne, ça, si et seulement si vous n'avez pas de réactance. Ça ne marche que si vous avez de la résistance pure. Et si vous avez une réactance, automatiquement, votre taux de puissance réfléchie affiché sera faux. Alors ça, je vous fais pas la démonstration, mais voilà. Et autre manière de définir le ROS, c'est par rapport aux impédances. C'est-à-dire que je définis l'impédance de mon câble coaxial et l'impédance de ma charge, et je fais le rapport des deux. En prenant au numérateur, donc au-dessus du trait de fraction, la valeur la plus grande, et c'est pour ça que je dis impédance maxi sur impédance mini. Donc je prends soit l'impédance de l'antenne ou de la charge et l'impédance de la ligne de transmission, je prends le plus important des deux et je divise par le plus petit des deux. Voilà. Et c'est aussi, d'ailleurs, le ROS, c'est aussi le rapport de la tension maxi sur la tension mini. Donc quand on revient dessus, c'est tension maxi sur tension mini. Hein, tout ça, c'est issu finalement des transformations de loi d'Ohm. Ça peut sembler compliqué, mais en fait, quand on débrouille un peu toutes ces formules-là, systématiquement, on retombe sur les formules de la loi d'Ohm. Donc, par exemple, des questions d'examen, on a eu quelques-unes. Quel est le TOS? Donc, on a une tension émise de 100 volts et une tension réfléchie de 80 volts. Voilà, 4 divisé par 100, ça fait 4%. Il n'y a pas besoin de sortir la calculette. Quel est le ROS? Donc, avec un câble coaxial de 50 ohms et une antenne doublée demi-ondes. Alors, dans certains comptes rendus, c'était indiqué la valeur du doublet demi-onde, et puis dans d'autres comptes rendus, c'était pas indiqué. Le doublet demi-onde, je rappelle, lorsque les brins sont alignés, c'est 75 ohms, 73 ohms précisément. Le ROS, c'est donc 75, la valeur la plus grande, divisé par 50. Donc 75 divisé par 50, ça fait 1,5. Inversement, avec une antenne verticale quart d'onde, qui par définition, si le plan de sol est bien à 90 degrés, ça fait 36 ohms, voire ce qu'on a vu la semaine dernière, eh bien on fait 50 divisé par 36, donc le plus grand divisé par le plus petit, toujours pareil, et ça me donne donc 1,388 arrondi à 1,4 sur 1. Alors, ça c'est une question que j'ai faite, moi, que je ne pense pas avoir vue dans les questions d'examen, ou peut-être qu'une seule fois. Mais ça, c'est pour... En tout cas, il n'y avait pas ici de valeur de ce type-là. Là, c'est pour vous fixer et avoir une idée de la manière dont ça fonctionne. Vous remarquez que on a bien ici 10 volts... par rapport à 0,16, comment ça va marcher ça? Voilà. 10 volts multiplié par 0,20 ampères, ici, ça me donne 50 ohms. Ça, c'est les maximums. Les minimums, c'est 8 volts et 0,16 ampères. Ça me donne encore 50 ohms. Mais si, en fait, là, ce que j'ai, c'est que j'ai un système qui va... ma charge va faire 40 ohms. Et comment je retrouve les 40 ohms? C'est 8 volts ici divisé par 0,2 ampères. Ça fait mes 40 ohms. Et c'est ça qui va être consommé. Si bien que je vais avoir 1 volt qui va repartir, et ici 0,4 ampères qui vont repartir aussi. 1 volt divisé par 0,4 ampères, revoilà mes 50 ohms. Donc vous voyez que, et à l'entrée, donc j'avais bien mes 50 ohms aussi. Donc vous voyez bien, à chaque fois, c'est tordu pour retrouver la manière dont ça va fonctionner, ce truc-là. Alors, et donc là, le ROS, donc le ROS, c'est la tension maxi divisée par la tension mini, donc c'est 10 divisé par 8, ça me fait 1,25, et d'ailleurs, mon impédance, puisque je vous ai dit, ça c'est typiquement ce qui va se passer si j'ai une charge de 40 ohms, donc ça me fait donc 50 divisé par 40, ça me fait 1,25 sur 1, et le coefficient de réflexion, lui, va être de 10 moins 8 divisé par 10 plus 8, c'est-à-dire 11%. Ou, ici, 0,2 plus 0,2 moins 0,16 divisé par 0,20 plus 0,16. Et ça me donne aussi 11%. Donc tout ça pour vous dire que c'est assez complexe, mais ce qu'il faut retenir, c'est que finalement, ce qui est important, c'est de faire en sorte que l'impédance de la charge soit strictement égale à l'impédance du coaxial, puisque en règle générale, l'impédance de l'émetteur est égale à l'impédance de la charge. Bon, on ne cherche pas à compliquer les choses en alimentant un émetteur avec un câble de 75 ohms. Voilà, en clair. Pour ceux qui veulent bricoler, parce qu'évidemment les câbles de 75 ohms coûtent un peu moins cher que les câbles de 50 ohms. Donc je sens arriver des gens qui vont essayer de faire des économies, mais c'est pas bon. Donc là, je vous ai rajouté des tas de pour vous amuser et vous perdre. Donc on va supposer que mon générateur ici, comme j'ai en retour, j'ai 1 volt, et bien en aller ici, j'ai 9 volts. Et donc c'est à partir de ces 9 volts que je détermine l'intensité qui doit être donc de 0,18 ampères. Et j'ai donc en retour 1 volt et 0,2 ampères qui repartent dans l'autre sens. Et encore une fois, quand on fait mes 9 volts et mes 0,18 ampères, ça me fait bien mes 50 ohms. Voilà, qu'est-ce que je peux dire encore? C'est à peu près tout. Et puis je peux m'amuser après à calculer la puissance dissipée par la charge quand je suis en régime transitoire, c'est-à-dire la première fois. Parce qu'évidemment, mon courant, il repart dans l'autre sens, et quand il revient à l'émetteur, il repart, encore une fois, vers la charge. Et d'où il est, en partie, encore une fois, il repart, enfin, partiellement, parce qu'il aura encore été absorbé par la charge, et il fait comme ça des allers-retours, jusqu'à un moment qu'on appelle le régime une fois que c'est terminé, ces allers-retours, une fois que toute la puissance a été dissipée dans la charge, eh bien on a finalement tout ce qu'a généré l'émetteur, sauf que l'émetteur, au passage, il a vu repasser plusieurs fois la puissance qu'il avait envoyée. Et ça, il n'aime pas trop. Donc c'est le fameux régime transitoire, donc ça c'est au début, c'est-à-dire que le courant fait des allers-retours. Évidemment, il faut tenir compte aussi des pertes dans le câble coaxial, parce que quand on a des pertes à l'aller, on a les mêmes pertes au retour, et on a encore des pertes quand ça repart vers la charge. Et en fait, le système, au bout d'un moment, il va se stabiliser, et c'est ce qu'on appelle le régime établi, et donc toute la puissance qui est générée par l'émetteur va être absorbé par la charge, mais il va y avoir plusieurs allers-retours dans le câble coaxial. Et donc la puissance dans le câble coaxial va être supérieure à du coup ce qui est consommé dans ma charge, puisqu'il y aura des allers-retours qui vont se faire dans le câble. Voilà, donc c'est un peu compliqué peut-être, mais voilà comment ça fonctionne réellement. Encore une fois, c'est pas des notions à connaître pour l'examen, mais quand on veut bricoler, c'est bon de comprendre comment ce système fonctionne pour essayer de faire au mieux, de le faire fonctionner au mieux. Ici, je vous ai mis les principes. Oui, alors, on peut passer facilement. Il y a des formules qui permettent de passer du ROS, enfin du coefficient de réflexion ici au ROS, ou du ROS au coefficient de réflexion. Donc ici, je vous ai mis des formules qui permettent d'y passer de l'un à l'autre. Il y a eu quelques formules dessus. Je vous conseille quand même de faire l'impasse, parce que sinon, vous n'allez pas vous en sortir, de tout apprendre, mais si vous les connaissez, bah, tant mieux. Et ici, je vous ai mis la table de correspondance entre le ROS, le TOS, le taux de le coefficient de réflexion et ici le taux de puissance réfléchie. Encore une fois, le taux de puissance réfléchie, il ne faut pas oublier que quand on parle du TOS, on parle de tension et d'intensité, et pas de puissance. Donc à chaque fois, il faut se remémorer, enfin voilà, quand on veut parler après de puissance, il faut passer par la formule P égale U2 sur R, puisque R, c'est fixe, c'est l'impédance, donc ça on en est certain, et donc la puissance, c'est le carré de la tension, ou le carré de l'intensité, puisque on a aussi P égale RI2. Donc quand on regarde bien ici, un TOS de 20% correspond à un taux de puissance réfléchie de 4%. Donc c'est la racine carrée de 20%. Il enfin, faut le sentir ça, hein. c'est pas quelque chose d'intuitif. C'est pas la racine carrée, pardon, c'est le carré. C'est-à-dire que 20% au carré, ça me donne 4%. Adaptation, on va en parler un peu tout à l'heure dans la manip de ce soir. En fait, on va utiliser une web de couplage pour faire en sorte que l'adaptation côté antenne soit optimale en finalement. Alors, ce que je fais finalement, c'est que je déplace le point de désadaptation et je le déplace enfin proche de l'émetteur parce que c'est plus facile pour moi de le régler et finalement je vais utiliser mon câble coaxial pour transférer ce problème de désadaptation et donc la désadaptation je vais la faire dès la sortie d'émetteur dans mon web de couplage pour faire en sorte que l'adaptation, elle va être comme ça répercutée sur l'émetteur, sur l'adaptation câble coaxial antenne à distance. Donc, je vais avoir deux types d'adaptation. Un type qu'on appelle ici filtrant pi, parce que ça a la forme du pi grec, hein, et ici le filtrant t, parce que ça a la forme d'un t ici. On va voir tout à l'heure, et ça permet de complètement adapter tout type de désadaptation. Quand on parle de boîtes d'accord, ça c'est les boîtes d'accord manuelles, et vous avez aussi des boîtes d'accord qui sont automatiques, dans ce cas-là, ça n'adapte pas tout, parce que c'est limité ici en termes de possibilités de valeurs de bobine et de condensateur. D'ailleurs, la plupart du temps, la bobine, il n'y a qu'une bobine et ce qui va bouger, ce sont les condensateurs. Donc, ça limite automatiquement les possibilités de la boîte de couplage, alors que celle-ci, vous avez les trois valeurs là où vous pouvez changer. Alors celle-là, pas complètement, parce que d'après ce que je comprends, ça doit être ici des contacteurs, donc c'est différents contacts sur l'inductance, et non pas une boîte de couplage avec une selle à roulette où vous pouvez définir précisément la valeur de la bobine que vous voulez. Ça, c'est des plus que vous apprendrez par la suite et pas de questions à l'examen. L'inadaptation et les symétriseurs. Alors, donc on vient de voir que si les lignes de la charge et de la ligne, enfin, si les impédances de la charge et de la ligne ne sont pas égales, il y a des ondes de stationnaire. Ça, on l'a vu. Et l'impédance ramenée à l'entrée peut avoir des composantes réactives, donc inductives ou capacitives. Toutefois, certaines longueurs de ligne des composantes réactives s'annulent. Ça, c'est parce que c'est notre histoire ici de nœud et de ventre. À chaque quart d'onde ici, on a un phénomène qui se passe, et donc tous les nombres impairs de quart d'onde, ça se répète. Et ici, à chaque demi-onde, donc à chaque demi-onde aussi, ça se répète. Que va-t-il se répéter? Eh bien, à chaque demi-onde, on voit bien qu'on a l'impédance d'entrée égale à l'impédance de sortie, puisque les deux courbes se reprennent leur même forme. Donc on a bien l'impédance d'entrée est égale à l'impédance de sortie, et ça, quelle que soit la valeur du câble. Et à chaque nombre impair de quart d'onde, on a l'impédance du câble au carré est égale à l'impédance d'entrée multipliée par l'impédance de sortie. Ou l'impédance du câble est égale à la racine carrée de l'impédance d'entrée multipliée par l'impédance de sortie. Donc quand on est ici, ici ça c'est mon entrée, et donc à chaque fois j'ai j'ai des valeurs. Donc ici à un quart d'onde, la valeur de ma sortie, puisqu'en fait ici je transforme cette valeur-là avec ce triangle-là, et ma valeur en sortie, c'est égal à l'impédance du câble au carré divisé par l'impédance d'entrée. Voilà. Et ici, toutes les demi-ondes, j'ai l'impédance de sortie est égale à l'impédance d'entrée. Donc si ici je ne suis pas, j'ai pas la bonne adaptation, eh bien je vais avoir comme ça une adaptation qui va bouger, enfin mon impédance de sortie va bouger au fur et à mesure de mon, puisque ici j'ai pas exactement la bonne adaptation. Donc ça complique un petit peu quand même. Et de ce fait, avec ces lignes coaxiales, là, ce qu'on appelle ici une ligne quart d'onde ou une ligne demi-onde, eh bien en fait c'est ce qui va me permettre de transformer des impédances. Donc par exemple ici, j'ai 40 ohms, c'est ma charge. Mais ici, si je me retrouve ici et que je mesure ici l'impédance que j'ai là, eh bien, je vais avoir ici 62,5 ohms, puisque j'ai 10 volts divisé par 0,16 ampères. Donc ici, j'ai 62,5 ohms ici, et quand je suis ici, je retrouve ici mes 0,2 ampères et mes 8 volts, donc je me retrouve ici à 40 ohms. D'accord? Et donc ce phénomène-là, il se répète de quart d'onde en quart d'onde. Alors, évidemment, on n'a pas de. Le câble coaxial, quand il atténue les courants, il atténue autant la tension que l'intensité, puisque, par définition, mon câble coaxial, il veut toujours avoir la même impédance. Donc s'il y a de l'atténuation dans mon câble coaxial, il y a à la fois de l'intensité qui diminue et de la tension qui diminue dans les mêmes proportions. Voilà tout ce que l'on peut dire sur ce système-là. Et on en arrive à des systèmes Sioux d'adaptation qu'on peut trouver sur certaines antennes, notamment avec ces fameuses lignes cardons d'adaptation. Et ces lignes cardons d'adaptation vont être constituées d'un bout de câble coaxial généralement fait maison, calculé pour donner une certaine impédance et qui va permettre d'adapter l'impédance de l'antenne. Alors évidemment, ça ne marche que sur une seule fréquence, puisqu'encore une fois, c'est le quart d'onde. Donc quand on dit quart d'onde, bah, c'est adapté à une longueur d'onde et donc à une fréquence particulière. En dehors de cette fréquence, évidemment, le système ne marche pas. Mais ça peut être quand même intéressant. Donc vous avez par exemple ce système-là, avec ici un quart d'onde, qui permet ici de réaliser un filtre et qui permet de filtrer une fréquence, puisque ici, la ligne ici, on l'a fermée, et comme on l'a fermée, eh bien, l'impédance d'entrée ici est infinie. Ça veut dire que là, mon système va bloquer une fréquence, la fréquence ici du quart d'onde. Et si ma ligne était ouverte, eh bien, je transforme ici, parce que le fait de mettre ici une ligne fermée, je dis ici, ma résistance, enfin, l'impédance ici est de 0 ohm. Donc j'applique ma formule de tout à l'heure, et ça me donne ici, quand la ligne est fermée, une impédance qui est infinie. En revanche, si elle était ouverte, eh bien ça me donne une impédance nulle. Donc là, ça laisse passer complètement la fréquence dont ici la longueur d'onde est un quart d'onde. Ça me semble complètement délirant, mais c'est très utilisé ça dans les antennes, notamment toutes les antennes UHF, SHF, etc. Vous allez de temps en temps voir des bouts de coaxial comme ça, vous dites à quoi ça sert ? Qui sait qu'à couper le coaxial n'importe comment ? Et en fait, c'est un filtre. Alors, pour aller jusqu'au bout du truc, autant une ligne fermée ici, ça marche bien parce que ça fait 0 ohm. En revanche, une ligne ouverte, donc un bout de coaxial ici coupé finalement au bout, hein, concrètement c'est coupé au bout, sans qu'il soit relié à rien du tout. On se dit c'est une ligne ouverte parce que l'impédance, elle est infinie en sortie. Eh bien non, elle n'est pas infinie, pourquoi ? Parce qu'elle reboucle sur le vide ou sur l'air. Et le vide ou l'air ont une impédance de propagation. Cette impédance de propagation, on en a déjà parlé un petit peu tout à l'heure, c'est ma loi de Maxwell. Et ma loi de Maxwell, elle me dit que l'impédance du vide, enfin l'impédance, c'est la racine carrée de L divisé par C. Je connais l'inductance du vide et la capacitance du vide. C'est ce qu'on appelle la perméabilité et la permittivité qu'on avait vu quand on avait fait les bobines et les condensateurs. Hein, donc la perméabilité, c'est 1,26 microhenri par mètre. Et la permittivité, quand vous vous souvenez des valeurs des condensateurs, 8,84 picofarad par mètre, eh bien j'applique ça à mon milieu de propagation, je prends la racine carrée de L divisé par C, et ça me donne 377 ohms. Donc mon vide, ou l'air, c'est pareil, le vide ou l'air, ont une impédance caractéristique de 377 ohms. Et c'est du coup, non pas ici l'infini que j'ai lorsque ma ligne elle est ouverte, mais j'ai 377 wheels. Et c'est pour ça que la plupart du temps, quand on fait des filtres comme ça, on va utiliser ici des filtres avec ligne fermée, parce qu'on est certain d'avoir 0 ohm. Et si on veut non pas faire un filtre ici bouchon, mais un filtre série, en fait on passe au demi-onde. Et donc quand on a demi-onde, eh bien on a l'impédance nulle lorsque ici ma ligne est fermée. Bon, pas de questions à l'examen là-dessus, heureusement, parce que sinon j'aurais perdu tout le monde. Mais voilà, ça c'est une partie qui est très complexe. Pas de questions à l'examen dessus, mais par contre c'est super intéressant à essayer de comprendre comment ça fonctionne ce truc-là. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Oui, en fait, la loi de Maxwell, elle me dit aussi l'impédance, enfin, la perméabilité et la permittivité qui vont me donner la vitesse de propagation. Et donc, ça c'est Maxwell qui avait dit que la perméabilité multipliée par la permittivité, multipliée par la vitesse de la lumière au carré, est égale à 1. Et donc inversement, la vitesse de la lumière, c'est 1 divisé par racine carrée de L divisé par C. Et si vous prenez ces valeurs-là, et ben vous allez arriver à 3,3 multiplié par 10 puissance 8 mètres seconde au carré. Mètres seconde, tout quoi. Donc, mes 300 000 km seconde. Donc, c'est Maxwell qui a trouvé la vitesse de propagation des ondes électromagnétiques avec son théorème. Et donc, Maxwell, c'est 1850 par là. Donc avant même qu'on ait découvert les ondes électromagnétiques. Voilà. Et donc comme dans l'air ou le vide, la perméabilité et la permittivité relative de l'air sont un tout petit chouille au-delà, eh bien on est un tout petit peu en dessous des 300 000 km par seconde sur Terre. Et vraiment un chouille. Et donc, c'est pour ça aussi que l'impédance dans l'air sec, c'est 300, on arrondit toujours à 377 ohms, mais en fait, c'est un tout petit chouille en dessous. Hein, puisqu'on n'a pas exactement 1 pour la permittivité et la perméabilité relative de l'air sec. Les ballons, je vous avais promis d'en parler un petit peu. Donc, vous avez plusieurs types de ballons. Premier ballon, dont on a parlé tout à l'heure, le choc ballon. Donc ça, alors là, en l'occurrence, il n'y a pas de ferrite, mais on peut aussi, soit on entoure le coaxial de bâtonnets de ferrite d'anneaux en ferrite. C'est aussi possible, hein, des coques, des petites coques en ferrite. Donc ça permet de limiter le courant de gaine. Autre solution aussi, on bobine tout simplement le coaxial ici sur un tube pour faire une bobine. Et donc du coup, le champ magnétique va arrêter le courant de gaine, au moins le limiter. C'est pour ça qu'on appelle ça un choc ballon. Choc, c'est pas le choc... choc thermique, hein, c'est le choc d'étouffer en anglais. Ici, le ballon 1 sur 1, donc ça, c'est le schéma électrique, je dirais, c'est la manière dont vous allez le faire. Donc, pourquoi c'est dessiné comme ça? C'est qu'en fait, vous prenez vraiment trois fils, vous les torsadez ensemble, et après, vous les passez dans un tore ferrite. C'est pour ça que c'est présenté de cette manière-là, c'est pour repérer vos fils. D'accord. Mais, donc ça c'est le schéma, je dirais, fonctionnel, comment on fait, et le schéma électrique, en fait, c'est ça. C'est-à-dire que c'est un système qui va... N'oubliez pas que votre antenne, elle est symétrique. D'accord ? Et votre câble, il est asymétrique. Et donc, vous avez comme ça un petit problème d'adaptation quand même. Et pour faire en sorte que les... Parce qu'en fait, dans votre antenne, dans votre doublet, si vous l'alimentez directement par le câble coaxial, vous n'êtes pas certain que les intensités et les tensions soient les mêmes de chaque côté de votre... de chaque côté des deux brins, puisqu'ils ne sont pas reliés. Donc il y a peu de chances qu'ils aient les mêmes tensions, les mêmes intensités. Pour être plus certain qu'ils aient les mêmes tensions, les mêmes intensités, il faut les relier. Et donc ici, on les relie, et on passe ici par un transfo. Donc ici, vous êtes certain d'avoir la même intensité, puisqu'elle va rentrer ici, elle va repartir là. Okay. Et même chose pour la tension. Et vous allez avoir ici un secondaire où vous allez récupérer votre signal pour alors soit alimenter l'âme donc quand vous êtes en réception ou qui vient de l'âme pour alimenter l'antenne quand vous êtes en émission. Et au point milieu entre les deux côtés de l'antenne, vous mettez votre tresse qui, elle, est reliée à la masse. Et comme ça, vous avez ici un système qui permet de passer d'un système qui est asymétrique, avec ici une masse et ici la polarité, je dirais, la polarité d'émission. Et ici, vous avez une sortie qui est symétrique par rapport ici à la masse. Donc vous voyez, il y a bien comme ça, c'est ce qui permet d'être certain que l'on alimente bien l'antenne, qu'elle est bien alimentée de manière symétrique. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un balloon 1 sur 1. Et puis, vous avez les balloons dits miracles. Donc là, c'est un 1 sur 9, mais vous avez aussi du 1 sur 64. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça, 1 sur 9 ? C'est qu'en fait, quand on regarde bien, n'oubliez pas qu'à chaque fois que vous passez par un enroulement comme ça, c'est le carré pour l'impédance, la transformation d'un transformateur, c'est le carré. Et donc ici, j'ai trois enroulements, donc c'est trois fois, mais au carré, donc 9. Puisque ici, c'est là où j'ai mon alimentation, donc je passe ici par un seul enroulement et ici en sortie j'ai un enroulement, deux enroulements, trois enroulements. Donc j'ai bien un rapport ici de 3 au niveau des enroulements, donc de 9 au niveau de l'impédance. Et si je veux avoir plus, eh bien en fait je rajoute ici un système complémentaire. Et donc, 4 x 4, ça me fait 16. Et puis, si je fais 5 x 5, ça me fait 25, etc., etc. Et donc, ça, 1 sur 9, ça veut dire que si j'ai 50 ohms ici, eh bien, j'ai 9 fois plus, donc 450 ohms, ici en sortie. Et 450 ohms, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'était une des impédances des longueurs, enfin, pour les longs fils, l'impédance d'un long fil qui fait une demi-longueur d'onde. Voilà, c'est entre 450 et 600 ohms. Et c'est pour ça qu'on utilise ce ballon miracle en disant, bah, si vous mettez un fil d'une demi-longueur d'onde à la suite, ça va rayonner et il n'y a pas besoin d'avoir un contrepoids, ce que j'appelle le contrepoids, c'est quand dans mon dipôle, j'ai bien mes deux brins. Et quand j'ai un quart d'onde vertical, j'ai bien mon plan de masse ou mes radiants et mon brin rayonnant. Là, en l'occurrence, j'ai juste un brin rayonnant et j'ai pas le contrepoids. Le contrepoids, il n'y en a pas besoin puisque c'est un long fil. Alors, le rendement, il n'est pas extraordinaire de ce truc-là. Mais ça permet de se... Tout au moins en réception, ça marche pas trop mal. En émission, c'est un peu plus compliqué, mais en réception, ça marche pas trop mal. Autre système d'adaptation, c'est les fameux gamma match que vous avez sûrement vu dans certaines, sur certaines antennes. Donc ici, vous avez une ligne qui n'est pas une ligne carbone, mais pas loin. Et ici, un condensateur qui permet d'ajuster finalement cette longueur là. Donc on ajuste à la fois la longueur et avec le condensateur. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un gamma match. Il y a des stubs aussi, donc voilà un stub. Donc vous avez le stub ici qui est en fait le fameux quart d'onde ou demi-onde avec ce morceau ici en dérivation. Ça s'appelle un stub. Et puis vous avez aussi des systèmes de filtrage. Alors je ne l'ai pas ramené avec moi, mais on a une grosse cavité. Une cavité au Radio Club. Une cavité, c'est quoi? Bah, c'est un ensemble où les ondes vont passer à l'intérieur, ici c'est vide à l'intérieur, donc ça ressemble un petit peu à une sorte de guide d'onde en fait, et on va avoir une vis de réglage ici qui va faire en sorte qu'il n'y a qu'une seule fréquence qui va pouvoir passer, ou au contraire une seule fréquence qui va être bloquée, hein, selon le système qu'on va retenir. Et donc on a l'entrée ici avec une sorte de transition, comme on a vu avec les guides d'ondes, et ici une sortie avec une deuxième transition. Voilà. Donc ça, c'est la bête, là, qui sert, enfin, qui pèse très lourd, hein. Ça doit peser 5-6 kilos, ce truc-là. C'est une grosse bête, avec ici, là, la couronne, là, c'est le noyau plongeur que vous avez à l'intérieur, et qui se règle ici, avec cette couronne-là. Donc on règle la fréquence de coupure de la cavité avec cette couronne, puisque en dessous c'est relié, il y a tout un système de relais avec une sorte de piston à l'intérieur. Les questions posées à l'examen rapidement. De quoi dépend l'impédance d'un câble coaxial? Écartement entre les conducteurs, longueur du câble et type d'isolant. Puissance transmise par le câble, impédance de la source et de la charge, évidemment, comme il n'y a qu'une seule réponse, c'est l'écartement entre les conducteurs. Il n'y a pas que ça, puisque il y a aussi l'histoire du diélectrique utilisé. En tout cas, les autres réponses ne sont pas bonnes. Soit un câble coaxial de 10 mètres de long et de 50 ohms d'impédance sur la fréquence 14100, quelle est son impédance pour une longueur de 20 mètres? Si c'est un câble de 50 ohms, il aura toujours la même impédance, quelle que soit la longueur du câble, sous réserve qu'il soit évidemment bien alimenté. Et si c'est du câble de 50 ohms, il fera 50 ohms sur toute la longueur, quelle que soit la longueur du câble, donc c'est 50 ohms. Et quelle est l'impédance du câble coaxial? Et donc là, vous aviez un calcul à faire avec la formule, là, mais 138 log de D sur de grand D sur petit D. Voilà. Et pas de... Il n'y a rien d'indiqué ici sur le diélectrique, on va supposer que le diélectrique c'est de l'air ou du vide. Ce qui entre nous est difficile à réaliser, parce que votre âme à l'intérieur, il faut bien que vous la mainteniez quelque part au milieu. Et donc vous allez être obligé d'utiliser à quelques moments un isolant là pour faire en sorte que ça reste bien au milieu. Sinon je ne vois pas comment vous allez pouvoir vous en sortir. Donc, on regardera le résultat après. Là, je ne vous fais pas ça à la calculette. Voilà, donc si vous voulez le faire à la calculette, il faut faire 138 log de grand D divisé par D, ce qui est donc 10 divisé par 3, donc 3,33, et log de 3,33, ça donne 0,5229, que je multiplie par 138, et ça me fait donc 72 ohms. Donc ça, c'est plutôt, ces dimensions-là sont plutôt du câble de réception de télévision. Hein, 72 ohms, 75 ohms. Alors, une question qui était, enfin, à mon sens, mal posée, tout au moins c'était le schéma qui était un petit peu perturbant, puisque on montre, on va supposer que c'est une ligne bifilaire, mais voilà, c'est pas très, très évident. Ici, on a une impédance d'entrée, ici, une longueur L, et ici, l'impédance caractéristique de la ligne, qui, enfin, une charge égale à l'impédance caractéristique de la ligne. Et on demande quelle est l'impédance à l'entrée. L'impédance à l'entrée, quelle que soit ici la longueur, c'est comme ici j'ai la même impédance, je vais me retrouver avec la même impédance à l'entrée. Et ce, quelle que soit la longueur. Ce n'est que lorsque je n'ai pas adaptation d'impédance où les choses se compliquent. Hein, donc mes ondes stationnaires avec éventuellement mes impédances qui varient à dans le câble selon l'endroit où je mesure mon impédance. Hein, donc soit à un quart d'onde ou un multiple impair d'un quart d'onde ou à une demi-onde ou un multiple de demi-onde. Donc voilà. Et encore une fois, le candidat, quand il m'a expliqué le schéma, j'étais un peu. Et je lui ai demandé qu'il m'envoie un dessin, parce que je ne comprenais pas de quoi il me parlait. Et donc il m'a envoyé ça. Voilà. Donc je pense qu'il est. Ça l'a bien marqué, donc il avait bien en tête le schéma. Mais c'est vrai que c'est pas du tout évident et. Et la question posée, elle est vraiment assez tordue. Puissance de 20 watts appliquée à un câble coaxial de 75 ohms, quelle est la puissance correcte ? Là, je l'ai mis à cet endroit-là, mais c'est plus des questions qu'on devrait voir quand on a parlé justement des puissances correctes. Parce qu'encore une fois, ça revient, cette histoire de 20 watts et de 75 ohms, la puissance crête, donc il va falloir calculer parce qu'une puissance crête, ça m'embête un petit peu quand même. Puissance, c'est par définition une puissance crête. Donc voilà. En plus, c'est une erreur parce que c'est une tension qu'on demande. Donc, je pense que là, c'est moi qui ai fait l'erreur dans la question et que je n'ai pas corrigé. Alors, donc on va voir ça. Donc là, c'est la tension. Donc la tension, c'est. Là, je vais utiliser P égale U2 sur R. Donc P égale U2 sur R, donc U est égal à racine carrée de P multiplié par R. Alors je le fais à la calculette. On va le faire à la calculette celui-là. Touc. Hop. Mon petit crayon pour remonter le truc. Alors. Donc, racine carrée de P multiplié par R. Racine carrée de alpha. P, 20 watts, multiplié par R, 75. Je ferme, entrée. Donc, ça me fait 38 volts. 38 volts, mais là, j'ai une valeur efficace. Et pour avoir ma valeur crête, il faut que je multiplie par 1,414. et ça me donne donc 5,476 10 puissance 1, donc 54,7. Et ça tombe bien, il y a un 54,7 dans les réponses. Il va falloir que je modifie la question parce que c'est ça qui pose problème et que je ne comprenais pas pourquoi je posais cette question. Donc c'est une mauvaise question dans le PDF qu'il va falloir que je rectifie. Quelle est l'impédance de cette ligne? Donc LC, donc une ligne coaxiale, hein. Donc 50 milliHenry par mètre et 20 picofarad par mètre. Donc c'est racine carrée de L divisé par C. Donc, on fait ça à la calculette. Et on y va. Alors, hop, hop, hop. Alors, seconde C. Alors, donc racine carrée. J'aime bien les racines carrées ce soir. Hein. Divisé par L, donc 50 multiplié par 10 puissance moins 3, divisé par, divisé par C, et C, on a dit que c'était 20 picofarades, divisé par 20 10 puissance pico, donc moins 12. Je ferme ma parenthèse exé. Et ça me donne 50 kilo-ohms. Voilà, je ne sais pas trop ce que c'est comme câble. Bon, enfin, en tout cas, c'est un câble qui ferait 50 kilo-ohms d'impédance. C'est un peu bizarre ce câble, mais bon, pourquoi pas. Ah oui, j'avais rajouté que si c'était ici non pas des milliHenry mais des nanoHenry, on tombait avec une impédance qui faisait 50 ohms. Donc est-ce que le candidat se serait pas trompé en relisant ses lots à N au lieu d'un M? Peut-être. Mais en tout cas, voilà, mes 50 kilo-ohms, c'est quand même très bizarre. Voilà. Quel est le TOS connaissant le taux de puissance réfléchie? Donc là, il faut passer par le taux de puissance réfléchie, récupérer le coefficient de réflexion, donc la racine carrée, et donc transformer ça. Transformer ça en TOS. Donc là. Le TOS, là, c'est donc si c'est ici 11% en termes de puissance, c'est donc 33% en termes, hein, c'est la racine carrée. Donc si je prenais racine carrée de 11, ça me donne 33%. De 0,11, ça me donne 33%. Racine carrée, j'essaye de le faire à la calculette de 0,11. Je ferme ma parenthèse, exé. Ça fait 33 et des poussières, mais parce que j'ai fait 11% et ça serait 11,11% avec plein de 1. Et même chose, là, quelle est la puissance réfléchie? Donc là, j'ai. Le ROS, donc il faut que je détermine quel est le taux de réflexion, quel coefficient de réflexion, à partir de là le mètre au carré pour avoir le taux de puissance réfléchi, et donc c'est quand même assez long, et donc je vous conseille plutôt de ne pas répondre à ces questions où vous passez beaucoup de temps. Et vous, enfin, en plus, vous risquez de vous planter. Et là, en plus, je pense que ça doit être 1 watt, tout simplement. Puisque de mémoire, un ROS de 2, ça doit donner un taux de puissance réfléchi de 11%. Et voilà, c'est 1 watt. Voilà. Et encore une fois, ce sont des questions qu'on retrouve un petit peu à l'épreuve de réglementation. Alors, pas aussi compliqué, Mais voilà. Impédance d'une ligne quart d'onde avec 25 ohms en entrée et 100 ohms en série. Donc quelle est l'impédance de la ligne quart d'onde qui permet d'adapter 25 ohms en entrée et 100 ohms en série? C'est plutôt comme ça qu'il faudrait poser la question, mais encore une fois, la NFR fait beaucoup de raccourcis, et des fois, pour comprendre quelle est la question, on a un peu de mal. Donc là, ce que l'on fait, tout simplement, c'est la racine carrée de 25 multipliée par 100. Donc ça fait 25 000, et racine carrée de 25 000, c'est 50. Donc si vous avez 100 ohms en sortie, 25 ohms en entrée, un bout de coaxial 50 ohms qui fait un quart d'onde de longueur, eh bien vous arrivez à adapter l'impédance. Quelle est la longueur du câble coaxial utilisé en ligne quart d'onde d'adaptation avec les caractéristiques suivantes? Fréquence à adapter 14 mégas, impédance caractéristique du câble 75 ohms, coefficient de vélocité 0,66. Donc là, votre quart d'onde d'adaptation, ce qu'il faut calculer finalement, c'est la longueur du câble d'adaptation. Quelle est la fréquence du signal de 14 mégas? C'est grosso modo 20 mètres, pour faire simple. Donc un quart d'onde, ça va faire 5 mètres, et multiplié par mon coefficient, mon 0,66, bah 5 mètres multiplié par 0,66, ça fait 3,50 mètres. Ouais. Et ça tombe bien, 3,50 mètres est une des propositions qui ont été données. Et d'ailleurs, toutes les autres sont au-delà de mon quart d'onde, donc de toute façon, c'est pas possible. Encore une fois, sur 14 mégas, le quart d'onde, c'est 5 mètres. Donc toutes les valeurs au-delà de 5 mètres, quelques sous, voilà, elles ne seront pas possibles. Propriété d'un ballon, ça c'est une question qui est assez récurrente. Isolation de Ross, transformation asymétrique-symétrique, atténuateur, filtre de bande. Évidemment, le ballon, c'est un transformateur asymétrique-symétrique quand on parle d'un ballon 1 sur 1. Si c'est un ballon 1 sur 9, ça ressemble aussi, ça fait asymétrique-symétrique, mais pas aussi, c'est plutôt asymétrique-asymétrique. Voilà. Donc le balloon, en l'occurrence, c'est... Alors, un balloon 1 sur 9, c'est pas réellement un balloon. Pourquoi? C'est qu'un balloon, c'est l'origine du mot, c'est balanced-unbalanced. Donc c'est balanced-symétrique, unbalanced, asymétrique. Donc c'est de l'anglais qui veut dire que c'est un transformateur, enfin que c'est quelque chose qui va transformer une alimentation asymétrique en alimentation symétrique. Et donc un ballon 1 sur 9, par définition, c'est pas un ballon. Il est unbalanced en entrée et unbalanced en sortie, puisqu'il n'y a qu'un seul fil qui va sur le long fil, le fil qui fait une demi-longueur d'onde. Donc c'est un un, si on veut. Voilà. Et on en arrive à la petite manip du vendredi soir. Alors, je vous ai préparé une jolie petite manip. Alors, je pousse tout mon matériel pour faire un peu de place. Je pousse tout ça et je vais me mettre sur la webcam. J'ai ici un bel appareil qui est un mini VNA. Alors, moi, ce que j'ai, mon matériel, ça va commencer déjà avec les reflets, non, ça va, c'est pas trop moche, je vais vous zoomer ça tout à l'heure. Donc là, j'ai mon câble coaxial, là, ça va sur mon antenne 80 mètres. Et donc, ce que je vais faire, je vais analyser mon antenne 80 mètres, et voir... Alors, je vais vous montrer ce que je vais faire avant, donc sur mon PDF. Je sais ici que, ici ça c'est mon antenne 80 mètres, elle fait 22 poussières, un peu plus de 20 mètres. Elle résonne sur 3 mégas 7. D'ailleurs, elle est un tout petit peu trop longue, il faudrait elle est un peu trop courte, il faudrait que je la raccourcisse. Elle est un peu trop courte, il faut que je la rallonge, pardon. Mais ça, faut que je remonte dans le grenier, c'est pas c'est pas ma priorité pour le moment. Et ce que je cherchais à faire, c'était la faire fonctionner, voir si elle pouvait aussi fonctionner sur le 10 mégas. Pourquoi ? C'est que le 10 mégas, c'est l'harmonique 3 de cette fréquence de 80 mètres. Alors, à peu près, hein, parce que l'harmonique 3 de 3,7 mégas, c'est plutôt du 11 mégas. Donc, c'est pas exactement l'harmonique 3, mais je m'étais dit peut-être que ça va fonctionner quand même. Pourquoi ? C'est que quand on regarde mes courbes, en fait, ici, je m'aperçois que je passe par un endroit où je pourrais avoir la même impédance, enfin une impédance de 50 ohms, pas trop loin des 50 ohms, comme je l'ai pour mon antenne 80 mètres. Et donc on va voir si c'est possible ou pas, et plutôt que de me lancer dans des trucs pas possibles, eh bien je vais utiliser mon mini VLA qui est là, voilà. Et une deuxième chose qui est très importante, une fois que je vais avoir vu ce que me donne mon mini VLA, c'est qu'est-ce que je dois faire pour adapter mon antenne sur le 30 mètres. Est-ce que c'est possible sans rien faire? Et d'autre part, qu'est-ce que ça va. Qu'est-ce que je vais devoir faire pour pouvoir adapter ça? Et donc, on va utiliser le diagramme de Smith. Alors, ce que je vous avais montré la semaine dernière, c'est l'escargot de Smith. C'est pas exactement pareil, parce que le diagramme de Smith, ici, c'est une représentation polaire. On va voir ce que ça veut dire tout à l'heure, quand je vous la présenterai. Alors que là, c'est une échelle qui est linéaire, c'est-à-dire que ici, mes impédances. Ici, c'est bien linéaire, et ici, enfin, ma résistance, pardon, c'est bien linéaire, et mes impédances, ici, sont bien linéaires. Alors que là, c'est ce qu'on appelle du polaire, c'est-à-dire que mes résistances, ce sont des cercles, et mes impédances, ici, mes réactances et mes capacitances, ici, c'est ces courbes-là, que l'on voit ici. Et c'est avec ce superbe diagramme de Smith que je vais pouvoir déterminer ce qu'il me faut pour adapter mon antenne. Et donc, le diagramme de Smith, je vous ai mis le lien ici pour avoir ce fichier-là, si vous voulez le faire à la mano. Et sinon, il y a sur Internet un truc en ligne qui est là, qu'on va voir juste après avoir vu le fonctionnement du mini VNA. Donc, qui est en fait ce mini VNA, c'est le complément de ce que l'on avait vu la semaine dernière sur les antennes. Donc ça, c'est un analyseur d'antennes. Je vais vous montrer tout ce que l'on peut faire ici. Je vous ai fait des copies d'écran au cas où ma manip du soir ne fonctionnerait pas. Donc, je prévois tout maintenant. Donc voici le mini VNA. Je vais zoomer dessus. Pour que vous voyez comment ça fonctionne. Donc en fait c'est un écran tactile. Hein. Et là j'ai. Alors. Est-ce que. Ouais, je pense que là, c'est là où j'ai la meilleure vue. Donc j'utilise la fonction qui s'appelle Frequency Sweep. Voilà, je vais balayer l'ensemble des fréquences, alors je peux lui dire quelle fréquence balayer. frequency. Donc je vais balayer de 3 mégas, c'est marqué, 3 mégahertz. Là, je peux éventuellement changer la valeur, hein, par exemple 2. Raté. Je vais laisser à 3. Et ici, je dis quelle largeur je veux. Donc ça commence à 3 et donc ça serait plus 4, donc jusqu'à 7 mégas. Et moi, je veux aller jusqu'à au moins 10 mégas. Et donc, je fais là pour arriver à 13 mégas, puisque ça va faire de 3 mégas à 3 plus 10, donc 13 mégas. OK ? Donc, je fais OK. Et ça va analyser. Je reviens sur le menu 1 et je fais Scan. C'est en train de scanner. Donc, ça scanne l'intégralité des fréquences de 3 mégas à 13 mégas. Et voici la courbe de Ross. Donc on voit bien que, évidemment, c'est une antenne qui est sur le 80 mètres, donc tant qu'à faire, elle est pas trop mauvaise sur le 80 mètres. D'ailleurs, la preuve, vous voyez ici, sur 3625, j'ai 1,3 de TOS. Donc je suis pas trop mauvais. D'accord ? Donc, une fois que je suis en. Donc, je m'éloigne de cette bande des 80 mètres, évidemment, le TOS y revient. Et ici, j'ai bien mon creux ici. Mais mon creux, il n'est pas du tout à l'endroit où je voulais, qui était plutôt sur les 10 mégas. Il est sur 9,250. Ne me demandez pas pourquoi. Normalement, il aurait dû être du côté de 11 mégas. Mais en fait, c'est la configuration de l'antenne qui ne doit pas être dans une configuration idéale, puisque moi je l'ai tendue comme j'ai pu. Elle n'est pas complètement. Les brins ne sont pas alignés parce que j'en ai une qui part dans la rue et je squatte deux poteaux et puis l'autre côté, ça fait des zigzags dans les combles de la maison. Donc c'est pas la meilleure solution pour monter une antenne. En plus, elle doit être à 6 mètres du sol. Pour le 80 mètres, c'est pas extraordinaire. Voilà, elle devrait être plus haut, mais bon, on fait ce qu'on peut. Et donc là, j'ai mon minimum ici, qui est quand même un TOS de 3, hein, qui serait sur 9,250. Donc c'est pas aussi extraordinaire que je ne le pensais. Autre possibilité, parce que quand on a un écran tactile, ce qui est bien, c'est qu'on peut voir d'autres représentations. Ici, vous avez, en plus, en rouge, vous avez l'impédance. C'est-à-dire que vous avez le ROS, mais ici, vous avez l'impédance qui est indiquée ici. Alors, ici, avec le 0 ohm ici, en maximum, on a 600 ohms. Donc, on a ici un maximum, ici, du côté de 8 mégas. Quand on appuie encore dessus, on a un deuxième graphique, donc on a toujours le ROS, hein, SWR, mais on a en plus maintenant, on avait l'impédance, maintenant on a la décomposition de l'impédance avec la résistance et la réactance. Donc la résistance ici, alors en blanc, je ne sais même pas où elle est, je suppose que c'est les valeurs qu'il y a ici, oui, puisqu'elle est toujours positive. Donc voilà, en blanc, elle est là. Donc elle avait avec une résistance maximum de 600 ohms et une réactance qui peut être positive ou négative, qui est là en rouge. Autre représentation, on a donc la réactance. Ah oui, ici. La résistance, enfin c'est la même chose, donc on a la résistance ici précisément, et ici la réactance qui est ici. Ça c'est quoi? Ah oui, ça c'est le S11. Alors le S11 c'est très intéressant parce que c'est le rapport entre la puissance qu'a envoyé le mini VNA et la puissance qui est revenue. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la puissance elle est revenue, ça veut dire que ce n'est pas adapté, et en tout cas, ça n'a pas été derrière rayonné. Et donc, on a, et plus évidemment, on a de retour, moins on a de retour, mieux, plus on est certain que c'est rayonné. Donc là, sur mon 80 mètres, j'ai ici 18 décibels, donc le signal de retour est de 18 décibels par rapport à mon d'écart entre mon signal émis par rapport à mon signal retourné. Et vous avez ici, donc ça veut dire que j'ai le maximum de puissance qui est émise sur cette fréquence-là. Et ici, malheureusement, je dois avoir seulement 8 dB. Donc c'est pas beaucoup sur mon fameux 9 mégas. Et enfin, très important, mon fameux diagramme de Smith. Avec un truc très important, donc ça c'est tout le... Alors vous voyez déjà, premièrement, on ne le voit peut-être pas, voilà. Il y a un petit point, vous voyez, qui se balade là. Je ne sais pas si vous le voyez. Donc le petit point, en fait, il s'est positionné à l'endroit où l'antenne est le mieux accordée. Ça tombe bien, c'est sur le 80 mètres. Donc si je reviens à l'origine, donc sur 3 mégas, elle va être très mal accordée, elle est là. Et vous remarquez que ce petit point, il va se balader comme sur tout à l'heure mon escargot de Smith. Ça va tourner dans le même sens. Plus je monte en fréquence, ici vous avez la fréquence qui s'affiche en bas, et plus je monte en fréquence, plus mon point il va se balader, voilà, et il va se balader jusque, alors il est où, bon, je vais essayer d'aller jusqu'à mon 11 mais à mon 10 méga 100, mon 10 méga 100 il est où, hop. Voilà, 10 méga 0,75, je suis pas trop mauvais. Donc en fait, je suis pas du tout... idéalement, il aurait fallu que je sois ici. Pour que je sois au plus proche ici de mon 50 ohms qui est ici. Déjà, j'en suis pas mal éloigné. Mais là, je m'en suis encore plus éloigné. Hein, puisque je rappelle, tout à l'heure, là, on avait vu que c'était aux alentours de 9 mégas qu'on était, quand on était là. Ici, 9 mégas tout rond. Donc quand si je vais sur le 10 mégas 100... C'est très précis, hein. Voilà. Donc ici, mon impédance, elle fait, donc c'est 27 ohms d'impédance, enfin de résistance, et ma réactance, c'est 130,6. Voilà. Et donc ça, c'est sur mon cercle trigonométrique que je le vois, ça. Alors, je vais revenir. Donc ça, vous avez bien noté. Alors, j'ai pas noté exactement la même chose sur la manip, parce que selon que l'on, c'est pas exactement les mêmes valeurs que j'avais repérées moi. Alors, je ne sais pas pourquoi. Moi, j'avais repéré 37,6 et 138 ohms. Enfin, je suis quand même pas loin. Et c'était sur quoi? Ouais, ah, c'était sur 10,125. Ouais, parce que 10,75, je suis en dehors de la bande. Voilà, 10,125, je suis à 24 moins 124. Bon, c'est pas exactement pareil, mais bon, ça doit être. Ça reste un instrument de mesure qui n'est pas d'une précision extraordinaire. Ça dépanne bien, mais c'est pas d'une précision extraordinaire. Et donc maintenant que j'ai ça, que j'ai analysé mon antenne, je vais pouvoir calculer qu'est-ce qu'il faut que j'utilise comme circuit pour pouvoir adapter mon antenne correctement. Donc je vais passer maintenant sur Internet. Alors, Firefox. Alors, je reviens ici sur Firefox. J'aurais dû revenir ici pour aller cliquer là-dessus. Voilà, ça charge la petite page. Alors, est-ce qu'on l'a bien, Firefox? On l'a bien. Alors, je vais essayer de pas tout casser. Donc ça, c'est un diagramme de Smith en ligne qui permet comme ça de calculer votre antenne. Alors, je vais revenir sur mon PDF pour vous expliquer comment ça marche, parce que sinon, vous allez être un peu perdu. Alors, comment ça marche? Donc, voilà mon diagramme de cycle. Donc, l'impédance, c'est 10,1 MHz que je vais mettre, et l'impédance que j'avais trouvée quand j'avais fait ma manip mercredi soir, c'est 36-138. Enfin, on s'en fout, ça va fonctionner de la même manière. Ici, alors, petit zoom. Petit zoom pour vous expliquer tout ce que l'on va trouver sur ce beau logiciel. Donc, j'ai rajouté des informations qui n'existaient pas. Donc, ce qu'il y a en arrière-plan, là, ce sont tous les cercles qui permettent de transformer les impédances en donc la bobine et le condensateur. Donc ici, vous avez les réactances en gris. Donc c'est les cercles constants de résistance et de transformation de réactance série. Voilà. Et ici, et donc par exemple ici, là au milieu, là, ça c'est mon cercle de 50 ohms. Donc quand vous avez 50 ohms, vous le positionnez sur ce cercle ici. Et comme vous avez aussi une réactance, il faut que vous la définissiez, et ben vous regardez les cercles, donc les courbes de ce qu'on appelle les courbes de J constant qui partent toutes de là. Donc quand c'est négatif un condensateur, ça va vers le bas, et quand c'est positif une bobine, ça va vers le haut. Moi en l'occurrence c'était alors J36-138. Donc le 36 il est un petit peu au-delà de mon 50. Donc là on a le 50, ici on a le 100. Donc il était là, un petit peu au-delà du 50. Et alors le ici c'est le 100, je crois. Je vois mal, c'est mal. Je pense que c'est 100, puisque ici, ouais, ici c'est 50. Donc ici c'est 100. Et donc c'est entre 100 et 200. 200 il est là. Donc le 138 il est là. Donc ça c'est le point de départ de mon mon impédance. Et il faut, avec des bobines et des condensateurs, que je le ramène ici au centre. Et vous allez voir, après, il suffit que je modifie ici les bobines, les valeurs des bobines et des condensateurs, et mon point, je vais faire en sorte que ça revienne ici au centre. Et d'ailleurs, au passage, parce que là, je fais ça dans le sens inverse, mais c'est plutôt dans l'autre sens que ça se passe, c'est-à-dire que je pars de l'émetteur vers l'antenne, et donc je tourne comme ça, dans ce sens-là. Ok ? Parce que j'ai ici un filtre en pi. Ici c'est un filtre en pi, et si j'avais un filtre en T, du coup ça va tourner dans l'autre sens. pour arriver à la même chose. Donc je m'attends que... Et, alors, ça c'est donc les alignements ici de transformation qui sont là. Les alignements des cercles de résistance. Ici les courbes de J constant. Et enfin, autour ici de mon 50 ohms, les courbes de Ross constant. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de ce cercle-là, je suis certain d'avoir un Ross inférieur à 2. Inférieur à 3 ici, et inférieur à 4 ici. À l'intérieur ici, j'ai un Ross qui va être de 3, et ici un Ross qui va être de 2. Donc inutile de vous dire que quand je suis ici, j'ai un Ross qui est de je ne sais pas combien, mais qui est très important, il faut qu'on soit vraiment proche ici du centre. Et donc mon 9 mégas tout à l'heure, il était dans ces eaux-là, donc il est grosso modo à 3 de Ross. Ce qui n'est pas catastrophique. C'est pas bon, mais c'est pas catastrophique. Alors que là, je ne sais pas comment. Enfin, je sais comment on va faire. On va mettre un filtre en piste. Donc voilà, une fois que je vous ai présenté ça. Je vous ai mis tout dans le PDF si vous voulez revenir dessus, travailler. Mais voilà. Et encore une fois, ça c'est largement au-delà de ce qui est demandé à l'examen. Et ça c'est si vous voulez bricoler. Moi j'aime bien bricoler, donc voilà. C'est toujours intéressant de savoir comment ça fonctionne. Donc ici ma fréquence, donc je mets 10,1. Que c'est sur 10 mégas 100, c'est bien du 50 ohms que je veux récupérer, tout va bien. Et ce que je vais faire ici, je vais mettre un filtre en pie, donc un condensateur, une bobine, un condensateur. Ok ? Je regarde ce que ça donne ici. Alors évidemment, c'est n'importe quoi. Alors, où est-ce qu'il est, alors, ce qu'il faut que je définisse maintenant, c'est la valeur de mon impédance. Donc, on a dit sur 10 mégas 100, là, je vais prendre la valeur indiquée par ma bestiole. Donc, c'est 25 ohms. Et réactance. Réactance, on a dit moins 124, moins 125. Moins 125. Entrée. Voilà. Et donc il me l'a positionné là. Ce n'est pas sur l'écran. Ah, j'ai pas passé sur Firefox. Voilà. Donc désolé, j'ai rentré et la fréquence ici. J'ai sélectionné la bobine, enfin le condensateur, puis la bobine, puis le condensateur. Et j'ai ici saisi la valeur de l'impédance de mon antenne. Donc ici 25 et moins 125, puisque c'est ce que me donne mon analyseur. Et donc mon point, il est ici. Et je veux faire en sorte de le ramener là. D'accord ? Donc pour cela, eh ben je vais utiliser mes que je reprenne mes notes parce que sinon on va y passer la nuit à essayer de comprendre. Alors on a dit j'essaye de zoomer sur mes notes. Hop, qu'est-ce que j'avais dit que je prenais comme valeur? Hop, 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 hop. Et ah. Alors, c'était 70, 1730 et 500. On va voir ce que ça donne déjà. Donc 70 picofarades. Voilà, donc ça avance déjà là. Ensuite, 1730 nano-henri. Après, on va peaufiner. Ça avance jusque-là. Et après 500 picofarades, voilà. Donc, là, vous remarquez que ça va un peu loin. Donc, en fait, il faut que je réduise ici cette longueur-là. Alors, je ne sais jamais après dans quel sens il faut, si c'est augmenter ou diminuer. On va voir si je passe à 8, ça, dit, ça augmente. Donc, c'est, pas dans, c'est dans l'autre sens. 6. Voilà, c'est encore un peu trop. Donc, je vais passer à 1530. Ça va pas être assez. Alors, 1600. Voilà, ça c'est pas mal, c'est pas mal. Ça me semble bien et c'est celui-là qu'il faut rallonger, pardon. Et donc si on rallonge, il faut diminuer la valeur. Et pas de chance. Il y a une chance sur deux à chaque fois. 600, voilà, ouais, j'ai mis 4600, donc effectivement là ça va pas aller si je mets 600 exactement. Donc j'ai bien trouvé mon filtre en pi qui me permet d'arriver ici à rétablir ici mes 50 ohms. Donc j'aurai 70 picofarads du côté de l'antenne parce qu'en fait l'émetteur il est là. Et l'antenne est là. Ici, c'est ma black box. Ce qu'ils appellent la black box, en fait, c'est mon antenne. Donc, 70 picofarads ici. Ici, 1600 nano-henri. Et ici, 600 picofarads. Donc, voilà ce que je devrais utiliser comme filtre en pi. Alors, ça me permet aussi de vérifier si ma boîte de couplage, par exemple, elle a bien ces caractéristiques-là et que je pourrais donc le régler avec ma boîte de couplage, tout simplement. Ou je peux aussi prendre un composant, enfin des composants, donc un condensateur, enfin deux condensateurs, ici une bobine, et faire ça en fixe en fait, pour que ce soit, ça ne bouge plus. Donc voilà la manière de le faire avec un filtre en pi, et je peux le faire aussi avec un filtre en T. Alors, on va essayer de le faire en T. Donc, le filtre en T, c'est quoi? C'est un condensateur, une bobine ici, et un condensateur serré. Et pour ce filtre en T, qu'est-ce que je devrais utiliser? Parce qu'il va falloir que j'utilise des valeurs. Alors, ce que j'avais pris comme valeur dans ma démo, enfin dans mon... Donc quand j'avais fait mes petits essais, c'était 500 picofarads, c'était 1500 nano et 80 pico. 80 pico. Je suis pas trop. Vous remarquez que du coup, le diagramme tourne dans l'autre sens. C'est-à-dire que je pars de là et ça va comme ça. Et avec ces deux, soit le filtre en pi, soit le filtre en T, je peux faire ce que je veux. Aller dans n'importe quel sens. Alors que si j'utilise, on va voir tout à l'heure, un filtre passe haut ou passe bas, je suis limité dans mes déplacements. Donc là, visiblement, mon dernier condensateur, là, il n'est pas assez grand. Donc je vais le passer à 90 picofarads. Ah, c'est raté, c'est dans l'autre sens. À chaque fois, c'est jamais de bon sens. Il y a des astuces pour y arriver, mais bon. Ah merde. 80, donc c'est 70 qu'il faut aller. 70. Voilà. J'y suis, enfin, quasiment. Donc, je ne bouge plus. Je ne suis pas très loin, là, de l'accord parfait. Donc je suis content. Et si je veux utiliser un filtre, alors là, ça y est. Je vais utiliser un filtre passe haut. Alors, comment je fais utiliser un filtre passe haut? En supprimant ici mon un des condensateurs, celui-là par exemple. Hop. Et donc là, j'ai un filtre passe-haut, il faut que je... Alors, est-ce que je rallonge, est-ce que je raccourcis, je ne sais pas. 1600. Non. Il faut que je raccourcisse. Merde. 400. Encore. Que je raccourcisse encore. Suppresse 1300. Encore. Que je raccourcisse encore. 1200. Voilà. Et maintenant, c'est mon condensateur qu'il va falloir que je... 60. Non. Dans l'autre sens, que j'augmente. 80. 90. Voilà. Et donc là, j'ai pas utilisé un filtre en T, j'ai utilisé un filtre passe-haut, hein, mon condensateur est en haut, parce que ici, je suis dans une zone où, parce qu'en fait, mon diagramme de Smith, là, va être découpé en deux zones. Une zone où je peux récupérer mon impédance par un filtre passe-haut, et une zone où je peux le récupérer par un filtre passe-bas. Là, celui-là, dans cette zone-là, je le récupère par un filtre passe-haut. Et s'il était dans ce coin-là, ça serait un filtre passe-bas. En fait, il y a des zones où ça se récupère. D'autres. Et donc là, en l'occurrence, cette zone où il est ici, c'est un filtre passe-haut. De toute façon, après, vous le voyez assez rapidement, parce que si vous essayez avec un filtre passe-bas, le truc, il va partir dans tous les sens, et vous n'allez pas y arriver. Ça ne revient pas au milieu. Je reviens sur le PDF. Pour vous montrer. Alors, pourquoi il n'est pas. Si je l'active pas, il ne va pas aimer. Voilà. Donc ici, c'est ce que je vous avais montré, c'est ce que je vous ai montré là à l'instant. Et ce qui est aussi intéressant avec ce diagramme de Smith, c'est par exemple, ça permet de calculer la bobine à insérer dans un fouet, enfin, ou à la base d'un fouet quart d'onde. Quelle est la valeur de la bobine? Connaissant ici, avec votre mini VNA, vous mesurez l'impédance, hein, à la résonance, et vous rajoutez une bobine pour arriver à la fréquence qui vous va bien, puisque vous allez ici l'indiquer ici. Donc ça, c'est si vous voulez revenir ici avec une résistance pure. Et si vous voulez avoir ce qui vous... Alors la résistance pure, par contre, elle ne va pas être exactement à 50 ohms. Donc vous allez encore avoir du ROS. Et si ça vous embête, quand on est là, on va être à 36 ohms, quoi. Donc ça va, vous allez avoir du ROS, ça va peut-être vous embêter. Et si vous voulez avoir un ROS de 1 sur 1, eh bien, il va falloir que vous trouviez un endroit où vous avez ici la résistance et la réactance qui va vous permettre de trouver 50 ohms. Donc votre ROS-mètre, il va vous indiquer 1 sur 1, vous allez être heureux, mais vous allez avoir du ROS quand même, puisque vous allez être... Quand on reprend mes cercles de ROS, vous allez être ici dans un cercle, à mon avis, à 2 de ROS. Alors que votre ROS-mètre, justement, il vous indiquera 1 sur 1. Parce que vous avez de la réactance qui vient perturber la lecture de votre appareil. Voilà, donc c'est... Voilà, j'espère ne pas avoir trop perdu de monde. C'est assez complexe, mais je pense que c'est toujours intéressant de savoir comment ça fonctionne, ce genre de choses. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite à tous un très bon week-end et à la semaine prochaine.